Vous êtes porteur d'une grande nouvelle aujourd'hui, Axel. Sur le plan économique, les Allemands se sont longtemps foutus de notre gueule. L'heure de la revanche a sonné.
Exactement. Enfin, on finit par battre les Allemands. Et c'est vrai, hein, les chiffres de la croissance 2019, on fait 1,3, c'est pas beaucoup, mais les Allemands font 0,6. Et l'année prochaine, on fera 1,1. Enfin, l'année prochaine, maintenant, je suis bête, 2020. Enfin, cette année, on fera 1,1.
C'est vous qui le dites.
Et les Allemands feront encore 0,6. Pourquoi ? Eh bien, parce que l'Allemagne, l'économie allemande repose sur trois piliers. Quels sont-ils, ces trois piliers ?
Les bagnoles.
Les bagnoles, 1. Alors, les bagnoles,
c'est quoi ? Les machines-outils.
Oui, ben, c'est 2 et il y a le troisième.
Pardon.
Donc, les bagnoles, c'est le diesel. Donc, ça, le diesel, ça ne marche plus. Le deuxième, c'est la chimie. Et la chimie, c'est quoi ? Bah, c'est Bayer. Hein. Donc Bayer, ce sont tout ce qui est nicotinoïdes. Et ils ont en plus racheté Monsanto. Donc maintenant, c'est pesticides, nicotinoïdes, OGM, etc.
Le troisième, c'est le tourisme. Non, ça n'a jamais marché. Hein,
ça. Non, ça n'a jamais marché. Et le troisième, vous l'avez dit, ce sont les machines-outils. Ça consiste en quoi ? Ça consiste à fabriquer en Allemagne et ensuite à exporter en Chine ou aux États-Unis. Sauf qu'aujourd'hui, vous savez, avec les bagarres commerciales, les Chinois protègent leur marché. Quant à Donald Trump, il ne veut plus. Il l'a même dit à Angela Merkel. Je trouve qu'il y a beaucoup trop de Mercedes dans les rues de New York.
Oui, c'est vrai, il a dit.
Alors que je ne vois pas beaucoup de Chevrolet dans les rues de Berlin.
De Chevrolet, nouvelle marque.
Chevrolet.
Si, parce que les Américains disent Chevrolet.
Ouais. Ah, Chevrolet.
Chevrolet. Oui,
ils parce disent que BMW. Non. Ils disent pas ça.
Voilà. Ah bon. Donc tout ça pour dire que le modèle allemand a du plomb dans l'aile. Alors que si vous regardez le modèle français, nous on exporte beaucoup moins. Mais on est très fort en service. Ouais. Le service, c'est quoi ? C'est Sodexo, qui par exemple qui sert dans les cantines aux États-Unis, dans les prisons, dans les hôpitaux, etc. C'est Veolia qui fait le traitement de l'eau, vous savez, qui gère les eaux en Arabie Saoudite, en Chine. C'est ce matin, il y avait le patron d'Accor sur Europe 1. Et il disait, alors que tout le monde dit, la croissance ralentit.
Oui, j'ai écouté,
lui, il disait, tout va très bien pour
très
moi.
Bon point, il écoute Europe 1.
Ouais. Et Accor sont présents dans 110 pays. Et il disait, mais oui, mais moi j'emploie en Inde, à New Delhi, si vous voulez, ils emploient de la main-d'œuvre indienne. Le patron de l'hôtel Ibis sera un Indien. Et donc, quand on veut expulser les étrangers, c'est très facile de coller une taxe à l'importation sur BMW ou Volkswagen. En revanche, vous n'allez pas fermer les hôtels du centre, vous n'allez pas renvoyer votre prestateur d'eau, celui qui vous assure l'eau propre dans la ville.
Donc on s'est bien débrouillé finalement.
Et bien oui, parce que nous sommes beaucoup mieux insérés de façon beaucoup plus locale dans la mondialisation.
C'était un choix ou c'est un coup de bol ça ?
C'est un coup de bol.
C'est so French.
En général, les grandes stratégies, c'est expliquer a posteriori pourquoi c'est pas la chance, mais c'est qu'on avait réfléchi à tout ça. C'est ça les grands stratèges. Hein. Ils font croire que.
Voilà. Très bien, tant mieux si ça marche.
Le domaine du luxe, non ? Où les Allemands sont peu présents.
Enfin, et alors, vous avez raison. En plus, le monde est moins en train de s'équiper et plus les classes moyennes émergent. Et les classes moyennes, elles veulent bien vivre. Elles aspirent à bien vivre. Et donc, pour eux, bien vivre, eh bien, c'est vivre à la française. Et donc, on surfe là-dessus. Mais alors, alors que ce soit les produits de luxe, que ce soit les grands vins, on exporte énormément là-dessus. Voilà. Donc, mais ça, c'est de l'exportation. Mais ce que je trouvais intéressant, c'était là où les Allemands ont un modèle d'export made in Germany et ensuite on vend aux autres, ce qui énerve tout le monde, à commencer par Donald Trump. Nous, on est insérés dans le tissu local des économies à l'étranger.
Ah, c'est bien.
Ce qui fait qu'on est beaucoup moins... C'est beaucoup plus difficile de nous mettre à la porte. Et c'est ce qui fait que le modèle français devient... Enfin, on peut parler du modèle français par rapport à l'Allemagne. Alors, vous savez que les Allemands disent que c'est pas beau de se réjouir du malheur des autres. Il y a même une expression pour ça. C'est une chute. J'essaie de trouver une chute.
Attention. La règle numéro 1 de la chute, et je pense que Frédéric sera d'accord avec moi, c'est qu'il ne faut pas l'annoncer.
Non, j'en ai une. Ça s'appelle le Schadenfreude. Le Schadenfreude, c'est cette joie maligne qui consiste à éprouver du bonheur en observant le malheur d'autrui. Je dois dire que par moments, quand j'entends les chroniques de Mathieu Charrier, j'éprouve un peu de Schadenfreude.
Bon, c'était pas mal comme chute. Il a beau l'avoir annoncé, c'était pas mal. Merci beaucoup, Axel de Tarlé, pour cette chronique qui tombe à pic pour l'amitié franco-allemande. Déjà qu'Europe 1 est partenaire du film 1917. Mais la force du peuple allemand, c'est de savoir se relever, comme le dit souvent Angela Merkel.
Il faut être optimiste.
Voilà. Emmanuel Duteil, vous nous parlez aujourd'hui du livret A, dont le taux baisse encore, comme d'ailleurs votre place au classement général. Dites-vous une chose, ça ne peut pas être pire que la dernière fois, souvenez-vous. Pourquoi voter pour vous, Emmanuel ?
Parce que je crois que c'était très intéressant ce que je vous ai raconté.
J'ai essayé de parler à l'invité.
Non, c'était bien.
J'ai pas lu et j'ai essayé de capter l'attention de Mathieu.
J'ai fait une micro-sieste au moment juste...
Allez, un café pour Thibaut de Montalembert et on y va. Emmanuel Duteil, que reste-t-il encore au livret A ? Rien.
Si, c'est quand même intéressant de livrer. Alors, certes, on est arrivé à 0,5%. C'est oui, tout simplement le plus bas historique. On n'a jamais touché un plus bas.
Super.
Rassurez-vous, ça ne pourra pas descendre plus bas puisque la loi avait quand même fixé un plancher pour que ça arrive à 0,5. Puisque si on suivait la formule mathématique, on serait à 0,25. Donc, bon, déjà, petit contentement, on est à 0,5.
Alors, tant qu'on n'est pas à moins 25.
Voilà, tant qu'on n'est pas à moins 25. Mais déjà, à 0,75, ça ne rapportait pas grand-chose. Si vous avez 10 000 euros sur votre livret A, vous gagnez combien ? 75 euros avant,
oui,
et maintenant 50 euros, ça veut dire que vous perdez 25 euros par rapport à avant. Il faut voir que la moyenne sur le livret A est très loin de ça. C'est 4700 environ en moyenne sur les 55 millions de livrets A en France. Et un autre chiffre que je trouve encore plus fou, c'est cette fois le chiffre médian. Vous savez, c'est quand il y en a autant au-dessus qu'en dessous. Vous connaissez le montant médian sur un livret A ?
Non, c'est quoi ? C'est 1000 euros ?
1000 euros ou
110 euros.
110 euros ?
Ah ouais, donc en fait, on met
c'est
rien.
C'est-à-dire
quoi.
Qu'il y a quelques personnes qui ont totalement rempli tous les livrets A de la famille, et la plupart, c'est vraiment un tout petit peu d'argent comme ça gardé.
Mais alors, qu'est-ce qu'on fait là ? On enlève notre
qu'est-ce
argent du livret A ?
Avec 110 euros.
Non, alors, alors on ne fout pas grand-chose effectivement avec 110 euros. Non, déjà, ceux qui ont un livret A, il faut le garder parce que ça a trois avantages quand même, le livret A. C'est de l'argent que vous pouvez utiliser comme vous voulez. C'est également les intérêts, même s'ils ne sont pas très élevés, vous allez me dire heureusement, mais ils sont totalement... Il n'y a pas d'impôt sur les intérêts que l'on peut avoir.
Il manquerait plus que ça,
oui, c'est
vrai. Ouais, évident, franchement. C'est certain. Vraiment. Et bon, c'est quand même un petit peu rémunéré. Donc voilà les trois avantages. On a également ce qui s'appelle le plan épargne-retraite. Alors là, c'est tout nouveau.
Pensez-y,
c'est...
Eva.
Oui, c'est vrai.
Non, mais, alors, c'est vrai
je crois que c'est trop tard, d'ailleurs.
Non, 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 vous avez été à 2-3 années de la retraite, c'est bon. Ouais. Le PER a été créé...
Ah, vous ne saviez pas ?
Votre âge pivot a été abaissé pour vous. C'est à cause de la pénibilité de Mathieu, vous voyez, vous avez un fort taux de pénibilité, donc vous pourrez sortir.
Bon, ah oui,
c'est un peu compliqué ce que je vous raconte, donc on se concentre un peu.
Ah oui, pardon, c'est quand même le chef du service.
Ça suffit.
Là, je suis sûr que vous savez même pas que je vous parle du plan épargne-retraite qui a été créé cet automne. Ça remplace tout ce qui existait avant, là, le PERP, le Madelin, le PERCO et tout genre de trucs. Là, c'est quand même intéressant parce que le rendement dépend de la durée d'épargne et du montant des sommes versées, entre 1 et 5% environ. Les sommes versées sont déductibles des revenus imposables, donc ça, c'est intéressant de regarder ce sujet si vous avez un petit peu de sous. Il y a encore aussi quand même l'assurance vie. Alors là, c'est
on n'en parle plus trop de l'assurance vie.
Non,
parce que tout le monde disait il faut avoir une assurance vie.
Mais parce que c'est le même problème que le livret A. À cause de la baisse des taux, le rendement s'est effondré. C'est-à-dire que l'année dernière, le rendement moyen de l'assurance vie, c'était 1,4%. Donc c'est pas énorme et je peux vous dire que ça va continuer de baisser cette année. Et la Banque de France voudrait même que ça baisse beaucoup plus vite parce que c'est un petit peu dangereux de les garder à des niveaux qui sont si éloignés des taux. Mais malgré tout, si vous avez un petit peu de courage sur l'assurance vie, vous oubliez vos fameux placements en fonds euros qui ne vous rapportent strictement rien et vous nous faites ça en ce qu'on appelle en unité de compte. Et l'unité de compte, c'est quoi ? C'est notamment basé un peu sur tout ce qui peut être actions, obligations. C'est plus risqué, mais ça rapporte plus.
On remercie Emmanuel
Duteil. C'était pas trop chiant ?
C'était pas trop chiant, Emmanuel Duteil. Vous mettez toujours beaucoup d'entrain, même dans les trucs les plus chiants. Déjà venue nous voir en août dernier. Ça avait d'ailleurs été l'occasion pour Eva de faire l'étalage de son talent d'intervieweuse, souvenez-vous.
Et vous aviez un petit surnom aussi, hein. Lucifer.
Non, Lucifer.
Ah, j'ai loupé le jeu de mots.
Elle avait loupé le jeu de mots. Bonjour Élise Lucet.
Bonjour.
La cata.
Un conseil Eva cette fois, laissez-moi gérer.
Oui, oui.
Aujourd'hui, ma chère Élise, on fête un anniversaire. 30 ans. Les 30 ans d'Envoyé spécial, jeudi soir, France 2 proposera une spéciale justement. Ma première question est simple, est-ce qu'il y aura un bêtisier ? Genre 30 ans de bourde d'Envoyé spécial ?
Il n'y a jamais eu de bourde d'Envoyé spécial, enfin, Mathieu !
Je suis sûr qu'il y a eu des petites
mais
bourdinettes.
Mais non, pas du tout, pas de bourdinettes, pas de bourde. Il y aura plein de choses, il y aura plein de surprises, mais pas de bêtisier.
30 ans de télévision pour une émission, c'est pas un record. Le jour du Seigneur, 70 ans. Vous allez faire mieux que
c'est
Dieu un jour.
C'est pas tout à fait le même style en même temps. Voyez,
vous prenez plus de risques. Est-ce que vous pensez, très sérieusement, que là, on fête les 30 ans, est-ce qu'on fêtera un jour les 60 ans d'Envoyé spécial ? Ou bien, vu l'évolution de la télé actuelle, des formats, est-ce que c'est une émission, elle est quand même née au XXe siècle,
oui.
Est-ce que ça peut perdurer encore longtemps, sous ce format ?
Sous ce format, je ne suis pas sûre, parce que je pense que les gens iront regarder les sujets sur les sites, et puis ils piocheront un peu tous les sujets qui les intéressent. Après, la marque Envoyé spécial, elle est forte, hein. Il y a une adhésion, il y a même presque un sentiment de familiarité. Je pense que si vous croisez dans la rue quelqu'un de 15 à 95 ans, ouais. Vous lui demandez ce que vous avez dans votre vie un jour regardé Envoyé spécial, la réponse sera oui. Est-ce que vous avez le souvenir d'un sujet un peu choc qui vous a remarquer, il vous dira oui.
Est-ce que la force d'envoyé spécial, c'est pas finalement d'être devenu un label, comme il y a le label rouge pour les produits, on sait que ça c'est bien fait.
On n'est pas des poulets en spécial, même temps.
Certes non. Mais est-ce que c'est pas un label pour dire voilà, vous regardez envoyé spécial, vous savez que les enquêtes sont fouillées.
Ben bien sûr que oui, c'est un label. C'est le label service public. Ça veut dire que effectivement, depuis que Paul Naon, Bernard Benjamin ont lancé l'émission, en gros il y avait deux mots d'ordre, c'était exigence, rigueur. Ils l'ont fait à un moment où vraiment c'était nécessaire parce qu'ils ont monté l'émission le 18 janvier 1990, donc c'est vraiment l'anniversaire quasi jour pour jour. C'était juste après la chute du mur de Berlin, juste après la fin des Ceausescu. On avait besoin d'y voir clair, quoi. L'Europe était en train de basculer complet. Et eux, ils ont monté ce magazine d'information. Il n'y en avait pas. C'est devenu une référence. Et puis, c'est devenu une fenêtre ouverte sur le monde. Et je pense que il n'y a pas eu de rupture de confiance entre les téléspectateurs et envoyés spéciaux au cours de ces 30 ans. Parce que Guylaine et Françoise, donc Guylaine Chenu et Françoise Joly, qui ont présenté l'émission pendant 16 ans, ont vraiment maintenu la barre et cette exigence et cette rigueur. Et puis nous, on le fait, bien sûr, on essaie en tout cas de le faire. Et donc, il n'y a pas de rupture de confiance entre nous et les téléspectateurs. Alors, il faut faire gaffe, hein, parce que quand on est une référence, il ne faut pas se planter.
Ah, c'est sûr, il y a la pression. Puisqu'on a la chance de passer l'après-midi avec Élise Lucet, la reine des journalistes, je propose à son Altesse que nous écoutions non pas un micro-trottoir sur ce que les gens pensent des journalistes, mais un micro-trottrash. C'est pareil, sauf qu'on n'a pas coupé les... En revanche, on les a quand même bippés.
Qu'est-ce que je pense de quoi ? Des journalistes, mais j'en pense du bien, du mal, ça dépend ce qu'ils disent.
Il faudrait un petit peu qu'ils se remettent en cause de temps en temps.
J'aimais bien Patrick Poivre d'Arvor à ce moment-là, mais pour moi, il présente les infos que les journalistes ont récoltées. On lui donne sur un prompteur ses infos et il les lit.
Bah, par exemple, Élise Lucet, ouais, j'aime bien ce qu'elle fait. C'est des enquêtes, des investigations, du coup, ouais, c'est intéressant.
Les journalistes, ils ont des orientations politiques. Ceux qui m'énervent, c'est ceux qui ne sont pas dans les miennes.
Quand je regarde les infos comme BFM TV ou sur TF1, ils travaillent bien, on connaît bien les infos, tout est bien écrit ou tout est bien dit. Ouais.
Ça dépend de où ils bossent. Si tu me dis journaliste de BFM TV, je leur dessus, clairement.
Ils racontent n'importe quoi. Ils sont tous du même côté. Bon, c'est à la mode d'être à gauche, bon, c'est tout. Jean-Pierre Pernaut, bon, c'est peut-être celui qui le serait le moins.
En fait, dans leurs questions, des fois, il y a la réponse.
Le truchement politique se sent beaucoup trop dans les journaux en France.
Un bon journaliste, si je devais en trouver un...
Globalement... Vive les journalistes!
Globalement!
Micro-trottrash assez contrasté aujourd'hui. J'imagine que pour vous, Élise Lucet. Pas si sévère, mais quand même, on sent une défiance vis-à-vis des journalistes dans ce petit micro-trottoir. Vous qui bossez énormément, qui cultivez les valeurs du journalisme d'investigation, c'est pas décourageant d'entendre que certaines personnes pensent encore que les journalistes sont vendus politiquement ou qui sont pas sincères?
Non, ça donne de l'énergie. Non, ça donne de l'énergie. Et puis, faut écouter les critiques. Faut pas entendre que les compliments. Ça va, les gens, c'est des citoyens, ils regardent la télé, ils écoutent la radio, ils lisent les journaux et on travaille pour eux. Donc, faut les écouter. Et je pense franchement qu'ils ont maintenant, il y a une demande de transparence dans l'exercice de notre métier. Et donc, nous, à la fois dans Envoyé spécial avec Sébastien Vibert, Séverine Lebrun, qui sont les rédacteurs en chef de l'émission, dans Cash avec Emmanuel Gagné et Sophie Le Gall, on a ça. C'est-à-dire qu'on a vraiment cette volonté de transparence de la démarche journalistique pour pas que les téléspectateurs se retrouvent dans la position du type ou de la nana qui est dans son canapé à qui on dit « Voilà, ça c'est la vérité, maintenant tu nous crois et c'est comme ça ». C'est pas ça le journalisme. Le journalisme, c'est emmener les téléspectateurs dans une aventure journalistique, leur faire partager toute notre démarche journalistique en toute transparence pour qu'ils comprennent d'où on est parti, où on va et qu'ensuite ils puissent se faire leur propre idée, leur propre opinion. Et cette demande de transparence, moi, je la comprends. Et il est impératif que les journalistes se posent des questions, comme le disait la personne qui était interviewée dans le micro-trash trottoir. Je ne sais plus quoi.
Nous non plus, on n'arrive pas à le prononcer. Voilà.
Mais en tout cas, oui. Enfin, je veux dire, c'est nécessaire. Il faut se poser des questions sur le métier. Tous les jours, c'est la base même du journalisme.
Il y a autre chose. Élise Lucet, tout à l'heure, pour la blague, je vous présentais comme la reine du journalisme d'investigation. Vous êtes très collective dans votre approche du métier.
Ah bah oui.
Et j'ai l'impression que je vous ai entendu une interview où vous parliez de Denis Robert. Et aujourd'hui, il ne peut plus y avoir un journaliste chevalier blanc qui va tout se prendre et qui va ensuite assumer les conséquences juridiques de ces révélations.
Non.
Il faut que les journalistes s'unissent. C'est ça le secret.
Et ça, c'est quand même génial parce que depuis les Panama Papers, il y a quelque chose qui s'est passé.
Voilà, il y a eu un tournant.
Tout à coup, on a commencé à bosser. On était 370 journalistes sans rédaction partout dans le monde et on a travaillé dans le plus grand secret pendant 6 mois. Donc nous, on a commencé à bosser en octobre. Les révélations, elles étaient en avril. Et le jour dit, à l'heure dite, vous avez 100 rédactions qui sortent des papiers papier sur de l'évasion fiscale ou de l'optimisation fiscale dans des comptes offshore. Et c'est incroyable. Enfin, je veux dire, il y avait 11,5 millions de documents sur lesquels on a bossé. C'était impossible. Denis Robert, par exemple, s'il avait été confronté à cette fuite et à cette source qui lui avait donné ces 11,5 millions de documents, il aurait dû bosser 24 ans pour pouvoir avoir... Et là, tout à coup, on est 370 dans 100 rédactions et il y a une force qui est équivalente à celle que peuvent avoir des immenses sociétés qui ont des armées d'avocats. Et ça, ils ne s'y attendaient pas.
C'est un contre-poids.
Ils ne se sont pas dit, il y aura une armée de journalistes. Eh ben si, ça peut arriver. Ça peut arriver.
Juste avant de prendre le train pour Angoulême, est-ce que vous allez gagner le Grand Prix, Catherine ? Parce qu'il faut dire qu'en ce moment, tout s'accélère pour vous. Vous êtes sous la coupole des immortels de l'Académie des Beaux-Arts. Et maintenant, vous êtes aussi en lice pour le Grand Prix à Angoulême cette année.
Oui, je ne sais pas pourquoi ça sent la ménopause. Je sens, c'est un truc. Non, je ne sais rien. Le Grand Prix, je ne sais pas. Je suis en lice avec Chris Ware et Emmanuel Guibert, qui sont deux auteurs que j'admire. Donc, je serais très contente que l'un ou l'autre lève. Enfin, bref, que vous répondre ?
Jules admire votre fair play parce que lui, je peux vous dire que s'il était nommé, il aurait déjà passé des coups de fil tous azimuts.
Et d'ailleurs, est-ce que vous aviez postulé à l'Académie des Beaux-Arts, Jules ?
Non. Mais maintenant que je sais que j'ai un moyen de pression sur Catherine, je vais le faire.
L'heure est venue, les amis, d'écouter notre ultime concurrent du jour. Comme ses lunettes, il revient de très très loin.
D'une lointaine galaxie, à quelques 40 000 années-lumière de notre système solaire.
En effet, vendredi dernier, alors qu'il tentait un bon mot face à notre invité, le comédien Thibaut de Montalembert, il est tombé dans ce qu'on appelle dans le petit milieu de l'humour un bide intersidéral. Un vortex de la gênance, un trou noir du lol. Tout s'est joué très vite.
Ils ont perdu les étoiles, Bocuse, c'est ça ?
Ils ont perdu la troisième étoile.
Faut remplacer les étoiles par des galaxies, c'est plus simple.
Par des
galaxies.
Ah oui.
Alors Alain, ce soir, pour oublier tout ça, pour sortir de ce vortex de la loose, vous allez décider de traquer les fantômes en goguette dans le cosmos.
Oui, j'ai décidé de vous parler d'un sujet extrêmement compliqué, en 2 minutes, 4 milliards d'années résumées. Non, plus simplement, je vais vous parler d'Euclide. Euclide, c'est un satellite qui va partir dans 2 ans, qui est fait par les Européens, et qui est chargé de percer un mystère absolument incroyable. En un siècle, on a 3 mystères fondamentaux dans l'histoire de l'univers.
Qui sont ?
Le premier, c'est dans les années 30, c'est Hubble qui regarde le ciel avec un grand télescope et qui se rend compte que les galaxies s'éloignent toutes les unes des autres, d'autant plus rapidement qu'elles sont loin. On découvre que l'univers est en expansion. Ça s'appelle le Big Bang. Tout le monde connaît le Big Bang.
Ah oui.
Ou en tout cas, on a entendu parler. Et ça, c'est vraiment quelque chose. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui se passe ? Dans les années 30 aussi, puis surtout en 1970, on découvre une deuxième chose. Un deuxième mystère absolument incroyable. On essaie de peser les galaxies, savoir quelle est leur masse.
Mais comment on peut peser une galaxie ?
C'est compliqué, je vous passe les détails. Mais on essaie de les peser. Et on découvre quelque chose. Alors vous faites combien ? 70 kilos par exemple ?
Vous êtes bien gentil.
Tout nu, 70 kilos.
86.
Bon, admettons, c'était plus facile pour mes calculs.
Ah non, pardon, 70 kilos.
70 kilos.
Donc, vous êtes censé être expert scientifique. Les calculs ne devraient pas vous faire peur. Mais enfin bon, si vous voulez.
Vous montez sur une balance et vous attendez à avoir 70. Et là, vous voyez 350 kilos. Vous dites, la balance, elle a un problème. Et puis vous descendez, mais vous changez de balance et c'est toujours 350 kilos.
Oh, que s'est-il passé, Alain ?
Et c'est ce qu'on découvre dans les galaxies, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose, une matière invisible qui pèse et dont on ne connaît pas la nature. On va appeler ça la matière noire.
Ça fait peur.
Deuxième grand mystère. Mais j'en rajoute un troisième qui est absolument fondamental. Au début des années 90, on découvre, avec des grands télescopes en regardant loin dans l'univers, que...
Les extraterrestres ?
Non.
Ah non, mince.
Mais l'univers est en expansion, mais pire que ça, l'expansion s'accélère. C'est-à-dire qu'on voit les galaxies aller de plus en plus vite, plus on est loin. Et là, les astronomes se disent, il se passe quelque chose. C'est comme si vous aviez de la levure dans un gâteau, vous voyez, ça grossit. Il y a quelque chose que nous ne connaissons pas.
Un
fantôme supplémentaire. Après le fantôme de la matière noire, c'est une énergie qui, en quelque sorte, dilate l'espace et qui fait qu'elle s'accélère. Et donc, on va appeler ça l'énergie noire. Et on va se dire, mais il faut qu'on trouve ce que c'est. Donc, on fait des expériences. Des tas d'expériences. On construit des laboratoires, on essaie d'attraper des particules fantômes au CERN à Genève, etc. Et en 20 ans, on ne trouve rien. Nada. Que dalle. On ne sait pas ce que c'est.
Jusqu'à
alors,
hier.
On se dit, bon, bah, très bien, c'est des mystères. Sauf que quand on fait la masse de tout ça, on se rend compte que l'énergie noire pèserait 70% de l'univers, la matière noire pèserait 25%, et toutes les étoiles, nous, vous, etc., 5%. Ça veut dire que l'essentiel a disparu. Donc on est dans un mystère considérable. Nous vivons dans un monde de fantômes. Et alors ce télescope, il va partir dans 2 ans avec l'idée de cartographier très précisément tout l'univers, en tout cas 30 à 40% de l'univers, pour essayer d'avoir une carte en trois dimensions de ces galaxies, la façon dont elles avancent, dont elles se sont déplacées dans le temps pour essayer de comprendre ce que c'est. Ce grand mystère incroyable, et je terminerai par une conclusion double. La première, c'est évidemment, c'est paraphraser Saint-Exupéry. L'essentiel est invisible. Nous vivons dans un univers où nous ne voyons rien, mais nous pensons que cela existe. Et la deuxième chose, c'est une démonstration entre la théorie, la différence entre la théorie et la pratique, ou en tout cas l'expérience. La théorie, vous savez, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne, mais personne ne sait pourquoi. Et là, j'ai essayé de mêler les deux, c'est-à-dire la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi.
Mais Alain, la dernière fois, vous nous avez apporté un morceau de météorite. Là, vous ne nous avez pas apporté un morceau de matière noire ?
Non. Non, parce qu'en fait, on ne sait pas ce que c'est. Donc, vous pouvez appeler ça la force, vous pouvez appeler ça la quintessence, ce que vous voulez. Mais en tout cas, c'est un mystère suprême.
Mais est-ce que ça a à voir, pardon, le profane, hein, mais est-ce que ça a à voir avec l'antimatière ?
Peut-être, on n'en sait rien. Non, mais je ne peux pas vous répondre autrement. Nous ne savons rien. Ce qu'on sait, c'est qu'on mesure mieux notre degré d'ignorance chaque jour davantage.
Catherine, Meurice et Jules sont nos invités aujourd'hui pour fêter l'année de la BD en France. Et bientôt, vous partez tous les deux au Festival d'Angoulême. Est-ce que le Festival d'Angoulême, moi, je n'ai jamais eu la chance d'y aller, c'est un peu comme le Festival de Cannes, c'est un peu des soirées à gogo, du champagne qui coule à flot, ou c'est une autre ambiance ?
Non, c'est plutôt une ambiance gastro et grippe. Ah et bon pas du tout. Non, c'est vraiment l'anti-festival de Cannes. C'est pour ça que ce festival est très sympathique. C'est que les auteurs ne se prennent pas du tout pour des vedettes.
Oui, mais vous faites un peu la fête quand même, sans
oui,
faire.
Oui, bien sûr, oui, mais il n'y a pas de multipass, des badges hyper select pour rentrer au Carlton. Il n'y a pas de Carlton, il y a l'hôtel Mercure.
C'est sympa pas aussi.
Mal, mais bon, c'est un chouette festival.
Si j'avais la plume alerte et inventive d'un stagiaire à Télé 7 jours, je dirais qu'il est un grand râleur au cœur tendre, mais qu'il est beaucoup plus que ça. Bonjour François Berléand.
Bonjour.
Double actualité pour vous, un film, L'Esprit de famille, qui sort la semaine prochaine, et une pièce, Par le bout du nez, le mois prochain au Théâtre Antoine à Paris. Alors, ça fait un moment, François Berléand, vous êtes en haut de l'affiche. Est-ce qu'on finit par s'y habituer, ou bien tous les jours, vous vous dites « waouh » ? Parce que vous avez connu quand même le succès relativement sur le tard.
Oui, mais j'ai toujours travaillé. Hein, c'est-à-dire j'étais dans le théâtre subventionné. Et ensuite, quand j'ai franchi le Rubicon, le théâtre privé m'a accueilli avec d'abord un petit rôle et puis ensuite des rôles de plus en plus importants jusqu'à des rôles principaux, mais qui ont coïncidé avec le fait que j'avais des rôles de plus en plus importants au cinéma aussi.
Et il y a une belle histoire sur ce film, L'Esprit de famille, c'est que le réalisateur Éric Bénard, son père, Jacques Bénard, vous avez bossé avec lui, c'est même lui qui vous a un peu donné votre chance au milieu des années 80 en télévision.
Mais c'est pas qu'il m'a donné ma chance, parce qu'en fin de compte, j'avais pas des rôles très importants, mais il m'a donné confiance. Et alors c'était assez étrange parce que j'avais fait un film de Pierre Jolivet qui s'appelait Le complexe du kangourou, qui était sorti dans des conditions malheureusement un peu épouvantables parce que c'était les attentats de Tati. Mais il se trouve que lui avait vu une projection avant que le film ne sorte et il m'a dit « Voilà, je vais vous proposer un rôle et je pense que c'est la dernière fois qu'on va vous proposer un rôle aussi peu conséquent, parce que c'était une demi-journée de tournage. Mais voilà, lisez la scène et si ça vous plaît, je serais le plus heureux des hommes si vous acceptiez. Donc j'ai accepté et puis voilà.
Vous êtes avec nous aujourd'hui pour ce film qui sort mercredi prochain, L'Esprit de famille. Mais surtout, alors vous avez une carrière incroyable, mais être l'invité de la 100e de l'Équipée sauvage, ça j'imagine que c'est un tournant dans votre carrière.
Je pense. Et dans la vôtre aussi.
On l'espère. Alors le film, on va faire le pitch un petit peu quand même. Eva, on peut déjà dire que c'est un film qu'on a beaucoup aimé.
Ah, moi j'ai adoré, mais c'est ce que je disais à François Berléand juste avant de débuter l'émission, j'ai eu les larmes aux yeux du début jusqu'à la fin du film.
Quoi, François Berléand vous a répondu assez justement. Oui, mais attention, on rigole aussi.
Mais bien sûr,
parce que n'allons pas dire à nos auditeurs qu'on chouine.
C'est extrêmement émouvant.
Voilà. Alors, vous êtes le père d'Alexandre, interprété par Guillaume de Tonquédec. Alexandre est un écrivain déconnecté de la réalité, un peu lunaire, qui vit davantage avec les personnages de ses romans qu'avec sa propre famille. Il a même tendance à être un peu dur avec vous quand vous le perturbez dans son travail d'écriture. Et puis un jour, l'inévitable arrive, vous mourrez subitement, vous disparaissez. Enfin, pas pour tout le monde, pas pour Alexandre.
Voilà.
Vous revenez sous forme de fantôme.
Voilà. Enfin, c'est lui qui me convoque. Hein. Moi, je ne suis pas un fantôme, je ne viens pas le hanter. Hein. C'est lui qui a besoin de voir mon image et puis de communiquer, puisque finalement, on n'a jamais communiqué ensemble du temps de mon vivant. Je crois que je suis le même père dans la vie que dans le film.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que je pars tout le temps par moi et par vous, du fait de mon métier. Soit je tourne au cinéma, souvent des films en province ou même à l'étranger. Et puis, au théâtre, voilà, je fais toutes les tournées des pièces dans lesquelles je joue.
Et ça, vos enfants vous le reprochent dans la vie ?
Ils me l'ont reproché. Les grands.
Les grands. Oui, les petites grands, pas encore.
Les petites pas encore, ça va venir. Ça, ça va venir à l'adolescence, ou pas. Peut-être que je serai mort avant, vous voyez. Là, je l'ai rentré.
Magnifique. Le titre du film pourrait être « Aimons-nous vivants ». Donc oui, c'est un peu ça. Le message
ah bah,
du film.
C'est sûr.
Il nous fait l'honneur de nous accompagner cet après-midi pour la 100e de l'Équipée Sauvage. François Berléand passe l'après-midi sur Europe 1. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, alors une fois de plus, je tenais, chers auditeurs, à vous remercier. Et d'ailleurs, si le temps ne nous était pas compté et que notre invité François Berléand n'avait pas autre chose à foutre, je vous dirais comme Bruel à Bercy en 96.
Merci pour ça.
Mais François me fait signe qu'on n'a pas le temps. François Berléand est notre invité pour cette 100e. Il sera à l'affiche mercredi prochain de L'Esprit de Famille d'Éric Bénard. Mmh. Très beau film avec Eva. On peut en témoigner. Oui. Très émouvant et très drôle aussi. Dans ce film, vous vous dites, il y a quelques citations qui m'ont marqué, vous donnez des conseils à votre fils. Vous dites, je fais tout ce que... Fais tout ce que vous lui intimez cette... Bref, vous lui dites... Fais tout ce qui te permet de te sentir vivant, mais pas tout seul. Il faut rire, manger, déconner, crier, désobéir, danser, baiser et surprendre. François Berléand, est-ce que c'est conforme à votre philosophie dans la vie?
Alors,
vous faites
moins,
vraiment tout
moins
ça
une. Parce que, oui, maintenant je suis un peu plus vieux, donc c'est pas...
C'est moins important. C'est
désobéir
moins
important,
voilà. Désobéir, non, c'est ça.
Oui, voilà, désobéir, bien sûr. Bien sûr, désobéir. Ben non, je désobéis. Oui, oui, c'est important. Non, mais je m'adresse à mon fils qui, dans le film, est un écrivain, donc qui est... très solitaire dans son écriture et qui, en plus, écrit des choses pas très intéressantes, mais qui se vendent bien. Mais voilà. Et donc, je lui dis, fais autre chose, quoi. Désobéis par rapport aussi à ta vie. Et puis, voilà, c'est important d'être avec les autres, de ne pas être seul. Il ne faut pas être seul. Faut communiquer.
C'est ce que je dis souvent à Eva.
Oui.
Vous avez déjà connu, François Berléand, le stress des auditions, mais croyez-moi, une audition n'est rien comparé à un quiz contre Eva Rock. Eva, qui chaque jour dans cette émission fait la démonstration de ses capacités intellectuelles hors normes, hier encore devant Catherine Meurice, nouvelle membre de l'Académie des Beaux-Arts, alors qu'un de nos chroniqueurs évoquait les peintures dépolluantes, les 49 neurones d'Eva sont entrés en collision, une idée est née, puis c'est la réaction en chaîne jusqu'à la cavité buccale et cette question.
Il y a aussi la première peinture anti-odeur qui a été inventée en France. Alors vous avez une pièce et en une heure, vous enlevez toutes les odeurs de frites, de moisies, les odeurs de fritures, de cigarettes.
Chaque fois que vous avez fait des frites, vous devez peindre votre pièce après.
Elle ne va pas rentrer à l'académie. Hein.
Et oui, non, la peinture c'est juste une fois. Il n'y a pas besoin de la mettre deux fois.
On a rediscuté de ce passage.
Bah, non, mais je suis un peu d'accord avec
vous. Merci François Berléand.
Bah,
non,
pardon.
Ne dites pas que vous êtes d'accord. La peinture dépolluante, elle dépollue tout le temps.
C'est mais pas... oui, mais
c'est
ça. Sauf
pas savoir. Mais moi, j'ai compris la même chose que mais je suis un peu.
Oui. Merci François.
D'origine russe.
Ah bah. Ça doit jouer.
Et moi, niçoise, ça doit être ça aussi.
Bah, c'est ça. Mais c'est pour ça. C'était...
En tout cas, vous avez vu ses capacités. C'est face à elle que vous allez maintenant jouer. C'est l'heure du quiz. Mon cher François Berléand, au cinéma, au théâtre, vous avez joué les plus grands auteurs. C'est pourquoi nous allons jouer avec des citations. Vous allez devoir retrouver les auteurs. Je vous ferai des propositions, mais faites-moi un petit plaisir. J'aimerais m'effacer devant vos organes à tous les deux, Eva et François. Je vais vous donner une feuille avec toutes les citations. J'aimerais les entendre de votre bouche. Allons-y pour la première citation. C'est Eva Rock qui doit retrouver l'auteur, mais c'est François Berléand qui la lit.
L'hypocrisie est un vice à la mode et tous les vices à la mode passent pour des vertus.
Jean d'Ormesson, Molière ou Michel Drucker?
J'aurais dit Molière avant
vous
même que
vous
donniez
Michel.
Les propositions.
Vous dites Molière?
Oui.
Vous maintenez votre choix?
Oui, je maintiens mon choix.
Molière, effectivement, bonne réponse, ouais. Eva Rock. Molière que vous avez joué au théâtre en 1974, si je m'en souviens bien, et surtout si Wikipédia ne dit pas de bêtises, François Berléand, c'est ça? Vous avez joué Molière, Monsieur de Pourceaugnac.
Oui. Oui.
Bonne réponse.
Oui.
Bonne réponse qui ne donne pas de points, mais bonne réponse quand
Merci.
Même. Deuxième citation, varions les plaisirs, c'est Eva Rock qui nous la lit. À François Berléand de retrouver l'auteur.
Les seuls murs vraiment impénétrables sont ceux dont on s'entoure soi-même.
Mmh. Oula. Joli, le Dalai Lama, Paul Claudel ou Louise Fernandez?
Louise Fernandez, peut-être pas. Je vois bien ça, Dalai Lama, mais peut-être que c'est l'autre. Mais je dirais Dalai Lama.
Ouais, le Dalai Lama aurait pu, hein. Il aurait pu. Mais c'est Louise Fernandez.
Non, non.
Oui, c'est Louise Fernandez qui a dit
quoi
ça.
Et pour commencer, par
les seuls murs vraiment impénétrables sont ceux dont on s'entoure soi-même. Il parlait peut-être des murs pendant le match, vous savez, quand il y a un coup franc. Je ne sais pas.
N'insultez pas l'intelligence de Louise. C'est beau. Il a aussi dit, Louise, le foot, ce n'est pas des maths. Il n'a pas totalement tort. Beaucoup de grandes citations de Louise Fernandez.
Là, j'aurais su. Ça, c'est... Pourquoi on ne va pas donner celle-là?
Je suis désolé. Oh. François Berléand, lisez s'il vous plaît la troisième citation à Eva Rock de trouver l'auteur.
Ça, celle-là est très, très bien. Ouais. Il n'y a plus d'anthropophage dans le pays depuis que nous avons mangé le dernier.
C'est très drôle ça.
Georges Feydeau, Popek ou André Santini?
Ah, peut-être Popek.
Vous dites Popek?
Oui.
C'est une mauvaise réponse, c'est Fedot.
Ah, c'est Fedot.
Et oui, on se souvient de Tailleur pour dames et le dindon que vous avez joué, mon cher François.
Oui.
Citation numéro 4, lue par Eva Rock.
Il y a des gens qui ont une bibliothèque comme les eunuques un harem.
Victor Hugo, Philippe Solers ou Christophe Willem?
Moi, je mettrais Philippe Solers. Mais...
Vous diriez Philippe Solers?
Ouais.
Eh bien non, c'est Victor Hugo.
Oh là là.
Il a dit aussi, Eva, et ça, ça va vous intéresser, « Dieu n'avait fait que l'eau, mais l'homme a fait le vin ». Victor Hugo, que vous avez joué, François Berléand, en 1985 dans Hernani, au Théâtre National de Chaillot.
Que c'est par rapport à ce que j'ai joué.
Il vient de comprendre le principe du quiz.
Ah mais merde, je viens enfin comprendre.
Oui, vous avez vraiment une...
Ah mais oui, j'ai un cuit de nouilles.
Non, vous êtes... c'est ça. Avec Eva, vous êtes trouvés là. Non, qu'est-ce qui se passe?
Eva, on se marie, on va avoir des enfants formidables.
Oui, c'est génial.
Ils vont être très... François Berléand, c'est à vous de lire la cinquième citation.
Tes larmes sont utiles, elles coulent pour faire des océans, pour rafraîchir la terre, pour faire pousser la force qui vit sous ton écorce.
Waouh. Eugène Ionesco, Mylène Farmer ou Jean-Claude Van Damme?
Oh, ça, c'est du Mylène Farmer.
Vous connaissez vraiment la discographie de Mylène Farmer par cœur?
Non, mais je ne vous dirai pas pourquoi j'ai pensé à ça.
Eh bien,
mais
oui,
je pense que c'est Mylène Farmer.
Écoutez, Eva, c'est une bonne réponse. J'ai essayé de vous déstabiliser une fois de plus,
oui,
mais c'est une bonne réponse.
À chaque fois, vous essayez.
Dernière
vous
citation
savez.
Qui va... Vous, je ne sais pas,
la
tête de la
réponse.
Elle
a gagné. Hein.
Ah oui, j'ai gagné.
Non. Vous n'avez pas gagné parce que sa dernière question vaut 3 points. Dernière citation lue par Eva Rock.
Le piano, c'est l'accordéon du riche.
Yvette Horner, Evangélie ou Michel Audiard?
Bah Michel Audiard.
Michel Audiard, bonne réponse. Et c'est François Berléand qui remporte le quiz sur le fil. Oh, c'est bien
enfin
foutu cette émission.
Fallait,
on vous a sauvé grâce au règlement. Grâce à notre règlement à géométrie variable. L'équipée sauvage continue sous les clameurs d'un public déchaîné dont l'excitation n'est pas étrangère. À la présence parmi nous d'un journaliste littéraire dont le talent a été salué par pas moins de 17 articles dans Télérama et 0 dans Télépoche. Un fossé entre succès d'estime et succès populaire que Nicolas Carreau s'emploie à combler chaque week-end dans son émission. Depuis quelque temps, poussé par la direction d'Europe 1, il met l'accent sur le show, n'hésitant pas à reprendre ses invités lorsque ces derniers se montrent un peu trop mous. L'école américaine en somme.
Salut les libraires.
Bonjour Nicolas.
Salut Nicolas.
Ça vous embête pas si on refait le bonjour?
Ok, ouais.
Un peu,
on refait le bonjour.
C'est à Vaucresson, salut les libraires.
Bonjour Nicolas.
Salut Nicolas.
Voilà.
Ça fait toute la différence. Alors on est emporté par
quel
votre énergie. Incroyable.
On prend la prise 1 ou la 2?
J'hésite, mon cœur balance. Alors Nicolas, il faut garder cette niaque incroyable que vous avez, cette niaque de gueudin, tout en nous parlant du succès du livre audio.
Le livre audio, c'est un format qui marche depuis très longtemps aux États-Unis et en Allemagne, mais en France, on a été un peu plus lent à s'y mettre. Moi, j'ai une hypothèse, c'est qu'on a sacralisé un peu l'objet livre, donc c'est un peu compliqué de passer sur un autre format. Mais depuis quelques temps, ça, on s'y met. Et le marché mondial ne cesse de croître. Selon des chiffres du cabinet Deloitte cités par le site iDBooks, il devrait augmenter encore de 20 à 25% cette année au niveau mondial. C'est gigantesque et générer 3,5 milliards de dollars, notamment aussi parce que les Chinois s'y mettent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le livre audio est en train de sortir de son marché de niche. Alors, pourquoi maintenant?
Mais oui, j'allais vous poser la question d'ailleurs, si j'avais pas raté la relance.
À cause ou grâce plutôt aux smartphones et aux outils technologiques nouveaux. Avant, il fallait un lecteur CD. Maintenant, on peut l'écouter n'importe quand, dans les transports, chez soi, pendant son footing. Les possibilités d'écoute se sont multipliées et donc c'est beaucoup plus facile d'accès. Et donc, le nombre d'auditeurs a augmenté. Et donc, les éditeurs en ont fait plus et mieux. Mmh. Et donc, les auditeurs ont augmenté, etc., etc.
Et parce que la qualité est supérieure, tout simplement.
C'est beaucoup mieux fait, bien mieux réalisé. Et puis, les comédiens chargés de lire ces livres sont triés sur le volet. Il y a des stars du livre audio maintenant, pas seulement des gens connus comme Thibaut de Montalembert. Il y a des gens qui sont connus uniquement dans le livre audio et les auditeurs choisissent en fonction de la voix. On reste quand même 15 à 20 heures avec la même voix. Il faut que ce soit vraiment nickel et super bien fait. On choisit son livre audio aussi en fonction de celui qui lit. Mais il y a surtout beaucoup, beaucoup plus de titres au catalogue. Avant, même un Jules Verne, c'était compliqué à trouver. Philippe Ross, par exemple, n'est toujours pas au catalogue. Il y a comme ça encore... beaucoup de marge de progression, mais de plus en plus, voilà, ça s'y met. Tout, je sais pas, il doit y avoir un par semaine, au moins un livre audio par semaine en plus. Quoi.
Il faut dire à tous les gens qui nous écoutent, parce que moi, par exemple, j'étais sceptique. À une époque, on travaillait déjà ensemble, vous nous parliez déjà du livre audio. J'y pensais même pas pour mon fils, je pense pour les enfants. Dans la voiture, je lui mettais l'iPad, encore un écran. J'ai tenté le livre audio en pensant que ça lui plairait pas. il est complètement et scotché. Les enfants sont vraiment captés par l'imaginaire et il peut passer mais deux heures de bagnole à écouter le livre audio. Et pas que les enfants, effectivement, mais nous, on écoute. Mais c'est vrai, voilà, je dis pour vos enfants,
faites-moi confiance quand je vous dis quelque chose.
La prochaine fois, j'y penserai.
Je vous ai préparé un petit quiz des extraits de livres audio. Je vous demande de me dire de quel roman il s'agit. Oula. Et qui est le lecteur? Le premier, c'est Fastoche.
Longtemps, je me suis couché de bonne heure.
Oui.
Ah, c'est Michel.
Parfois, à peine ma bougie éteinte.
Non, c'est André Dussolier.
Et c'est Dussolier dans Proust.
C'est Proust. Voilà. C'est deuxième extrait.
André Dussolier.
Sur ce sentiment inconnu, dont l'ennui, la douceur m'obsède, j'hésite à apposer le nom, le beau nom grave de tristesse.
Bon, alors le roman, là.
C'est un sentiment si complet.
Bonjour Tristesse.
Bonjour Tristesse. Oui,
c'est François Sagan.
Mais la voix,
c'est Sarah Giraudot.
Ah, c'était un petit peu dur, mais c'est vrai.
Troisième extrait. Dit,
oui. Madame Ferrard mourut dans la nuit du 16 au 17 septembre, un jeudi. On me fit appeler le vendredi matin à 8 heures précises.
Vous reconnaissez la voix, Mathieu?
Oui. Mais je crois que c'est notre invité.
Quelle voix. Thibaut Montalembert, et c'est Le meurtre de Roger Ackroyd de Agatha Christie.
Ah oui, parce que là, j'avais pas du tout reconnu le texte.
Et bah, déjà, vous avez reconnu Proust. On va pas trop vous en demander sur une seule journée.
C'est
mais
vrai, c'est beaucoup.
Bon, merci Nicolas Carreau pour cette chronique. Oui, Nicolas.
Ça vous embête pas si on refait le bonjour? Il était un peu.
Non, mais là, on n'a pas le temps, Nicolas. On n'a pas le temps d'être gentil, il faut qu'on avance. D'autant qu'on reçoit quand même Thibaut Charles-Marie Septime de Montalembert.
Je suis Godefroy Amaury de Malfaite, comte de Montmirail, d'Apremont et de Papincourt, fils d'Aldebert de Malfaite et de Thibaut de Montfaucon.
Certainement un cousin à vous. Monseigneur, vous êtes né en Mayenne dans une famille aristocratique issue de la vieille noblesse, pas de la noblesse d'empire. Hein. C'est vraiment, ça remonte à loin.
Assez loin, oui.
Et
oui.
Ça fait quoi d'être noble en France en 2020? Est-ce que ça change quelque chose? Est-ce qu'on y pense parfois? Est-ce que vous avez un titre? Bonne question d'Emmanuel Lutet.
Alors d'abord, le titre, c'est... Il faut savoir qu'il n'y avait que l'aîné de la famille qui avait le titre. Oui. Et puis, au moment de la Révolution, quand ils sont tous foutus le camp en Angleterre ou à l'étranger, quand ils sont revenus à la Restauration, tout le monde s'est mis à porter des titres. Alors, on reconnaît quel est l'authentique, dans le sens où, par exemple, il y a un comte de Montalembert, qui est mon cousin, et après, il y a le comte Thibaut de Montalembert, le comte... Mais ça ne veut rien dire.
Mais vous n'avez pas fréquenté les rallyes dans votre jeunesse,
non,
ce genre de choses?
Pas du tout.
Ouais. Alors, vous dites, j'ai raté une première fois mon bac car j'avais oublié d'y aller. Oui. C'est bien parce que vous paraissez quelqu'un de très ordonné, tout ça, mais vous avez vraiment oublié d'aller au bac? Comment c'est possible, ça?
En fait, j'avais deux envies dans ma vie. C'est je voulais rentrer au monastère ou devenir comédien. Et en fait, le jour où j'ai décidé de devenir, parce que j'avais quand même décidé de devenir prêtre, le jour où j'ai pris ma décision, c'était le jour de mon bac. Et cette décision que j'avais prise, que je croyais avoir prise, a pris le pas sur tout. Donc,
y compris le bac.
Y compris le bac.
Et vous êtes toujours croyant aujourd'hui, j'imagine?
Oh, ça a beaucoup évolué.
Ah, ça a beaucoup évolué, même la croyance.
Oui, c'est-à-dire que je ne suis plus d'église, comme on dit, mais je crois en Dieu, oui.
Vous n'allez plus à la messe?
Non.
Je ne sais pas, pour quelqu'un qui a voulu être prêtre, ce n'était pas une question aussi con que ça.
Non, c'est vrai.
Il est arrivé à pas de loup pour s'asseoir à vos côtés, Élie, sans faire de bruit, sans dire un mot, ce qui pour lui constitue un exploit. Dans sa Belgique natale, on l'appelle la pipelette de Namur. Oui, Olivier Pouls, notre expert gastronomique, fait partie de ces gens qui, s'ils ne sont pas interrompus, peuvent parler indéfiniment, même en plein enregistrement d'une émission de radio où le temps est compté. CF hier.
Et en fait, l'ancien observatoire était transformé maintenant en une espèce de gîte, et on peut passer la nuit là-haut. Tu prends le dernier télécabine, et après, t'es tout seul au monde, là-haut. C'est assez incroyable.
Non, c'est passionnant, Olivier, mais on va juste finir l'émission. Bonjour, Olivier Pouls.
Bonjour, vous voulez que je reprenne où on en était?
Alors,
hier, ou ça va?
On fera un podcast natif pour Europe1.fr sur lequel vous raconterez votre histoire dans les Pyrénées. Tous les soirs, dans Délices in Extremis, vous nous proposez, Olivier, une recette de dernière minute, inratable. Qu'est-ce qu'on mange ce soir?
Oui, mais là, avant de passer à la recette, d'ailleurs, je ne sais pas si vous la voudrez à la fin de cette chronique, il me faut faire un petit peu de cache-investigation à ma manière.
Tout le monde aussi,
puisqu'on parlait tout à l'heure de modifier les habitudes alimentaires, de regarder d'un petit peu plus près ce qu'on a dans nos assiettes et dans nos verres. Et là, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de l'avocat, un sujet qui pourrait d'ailleurs faire l'objet d'un excellent reportage.
Eh bien, c'est déjà fait, mon cher.
Olivier.
Envoyé spécial, les avocats au Mexique, Virginie Villard. Je ne peux pas vous donner la date exacte, mais je vais rechercher.
Elle est forte.
Alors, l'avocat, c'est vrai qu'il a son côté pile, qu'on adore. C'est délicieux, c'est extrêmement bon pour la santé, c'est nourrissant, enfin, c'est paré de plein de vertus. Et puis, malheureusement, il a son côté face qui est terrible. C'est un ennemi de notre environnement. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'avocat est massivement produit aujourd'hui en Amérique du Sud. Hein, le Mexique est un des pays producteurs les plus importants. Il faut 1000 litres d'eau pour produire 1 kilo d'avocat. Mais vous imaginez le rendement.
Mais c'est terrible.
Eh oui, c'est terrible. La demande de l'avocat dans le monde aujourd'hui est telle que malheureusement, une partie des cartels de la drogue se sont emparés de l'industrie, de la production et de la vente de l'avocat. Et ils brûlent la forêt équatorienne, ils la transforment en immenses plantations d'avocats qui sont évidemment catastrophiques d'un point de vue de l'écologie, puisqu'ils assèchent des rivières entières, des nappes phréatiques, qui privent la population d'eau courante et pour se laver, tout simplement
tout ça pour
que nous puissions manger des avocats.
Les New-Yorkais puissent bouffer des toasts avocats à leur pause déjeuner à Wall Street.
Ou des sushis.
Ou des sushis avec de l'avocat, c'est vrai. Ouais.
Et donc pour revenir à mon avocat, on pourrait dire, mais dans ce cas, on n'est pas obligé de manger de l'avocat du Mexique, on peut peut-être manger de l'avocat d'ailleurs, et peut-être même de l'avocat français, figurez-vous.
Il y a de l'avocat français, Olivier Pouls ?
Il y a un peu d'avocat en Corse. Ah. Ça date de 1957. Alors malheureusement, c'est une production qui est très 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 confidentielle.
C'est très difficile à trouver.
Et oui, parce qu'on avait démarré un programme de plantation en Corse donc à la fin des années 50. On a eu jusqu'à 220 hectares d'avocatiers plantés en Corse. Malheureusement, en 1985, il y a eu un gel terrible qui a ravagé une grande partie de ces avocatiers. Il n'en reste plus qu'une vingtaine d'hectares, donc c'est dur à trouver. Évidemment, c'est forcément plus cher.
Et alors, qu'est-ce qu'on
Est-ce
fait
que vous
avec
voulez
ces
encore la recette du guacamole?
Oui, j'ai la chance de connaître un peu la Corse et j'irai directement chez le producteur.
Bon ben voilà, vous irez chercher les avocats qui ont mûri sur l'arbre, parce que là aussi c'est très important, c'est une différence de goût extraordinaire.
Ah bon ?
Si vous avez la chance d'avoir des avocats de Corse qui ont mûri sur l'arbre, c'est fantastique. Vous allez les écraser à la fourchette tout simplement en gardant un petit peu de texture
quand
même.
C'est une recette que j'arrive à comprendre.
Oui, là,
on écrase à la fourchette.
Attendez.
Se complique, il faut verser un jus de citron vert dessus.
Oh alors, mon Dieu, ça c'est compliqué.
On peut toujours y arriver. Il faut hacher finement un peu de coriandre, si vous l'aimez en tout cas. Vous allez à mélanger, et puis il faut relever. Et pour le relever, vous oubliez les épices venues du bout du monde, etc. Utilisez un beau piment d'Espelette. On produit ça en France également, c'est pas trop loin, c'est magnifique, ça donne du goût. Donc voilà, c'est 4 ingrédients vous feront un guacamole français qui ne sera pas trop impactant pour notre environnement.
On remercie Olivier Pouls, qu'on retrouve tous les samedis dans la table des bons vivants de Laurent Mariotte à 11h sur Europe 1, et bientôt, qui sait, dans Cache Investigation, après cet appel du pied très fin à Élise Lucet.
Claire.
Vous écoutez Europe 1, plus qu'une radio, une famille. Ici, pas de distinction entre les stars de l'antenne à Paris et nos correspondants en région. La preuve avec Nathalie Chevance, correspondante d'Europe 1 à Marseille depuis plus de 10 ans. Forcément à Paris, tout le monde la connaît. Et surtout ceux qui sont là depuis longtemps, comme Laurent Cabrol, qui l'adore. Il a toujours adoré Nathalie. Émilie attends, comment elle s'appelle déjà?
Le reportage de notre correspondante à Marseille était vraiment superbe.
Nathalie Chevance.
Nathalie, pardon, j'avais oublié ton prénom.
Oui, bah ça fait juste 10 ans. Bonjour Nathalie Chevance.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Nathalie, vous êtes donc notre correspondante à Marseille, comme chacun sait. Et vous avez rencontré deux collectionneurs qui se battent depuis des années pour qu'on puisse enfin rendre hommage à la môme Piaf.
Oui, car c'est complètement fou. Figurez-vous qu'il n'existe aucun musée consacré à Édith Piaf, artiste exceptionnel connu dans le monde entier, photographié à son époque autant que Marilyn Monroe.
Ah,
et
oui.
Pourtant, à Marseille, deux hommes ont en leur possession un véritable trésor qu'ils conservent depuis des années. Une collection qui leur a été léguée par la secrétaire particulière et par l'accordéoniste d'Édith Piaf, qui, on le sait, n'a pas eu d'enfant, pas d'héritier donc. Il y a des centaines d'objets, des robes, des chaussures, du maquillage, des jouets offerts par son père quand elle était enfant, des pièces sorties de l'histoire et conservées par Jean-Paul Mazillet et Anthony Béraud dans l'appartement de ce dernier, qui au fil du temps a aussi retrouvé d'autres pièces, 10 000 photos originales, des affiches, l'intégralité des 78 tours, des films, des enregistrements personnels comme celui-ci. Écoutez.
J'étais sûre que je réussirais le chanter, j'avais 7 ans, et je faisais une prière. Et dans ma prière, je disais, mon Dieu, faites qu'un jour je sois vedette.
Voilà, Piaf qui rêvait d'être vedette. Et tout cela constitue la plus grande collection sur Piaf, avec comme pièce maîtresse la fameuse robe de scène de 1958 portée à l'Olympia.
Édith Piaf gardait tout aussi. Elle était très collectionneuse sur sa vie personnelle. Et là, quand je pense que je peux toucher la robe de Piaf, ou son foulard de l'Olympia, ou ses chaussures, ou même sa croix, voilà, je suis assez fier. Alors ça, c'est les petits chaussons d'Édith Piaf qu'elle portait très souvent, on la voit très souvent en photo avec, et puis son sac à main. Et dans le sac, Il y a toujours sa paire de gants, son stylo avec lequel elle dédicacée. Et là, dans le sac à main, les cheveux. Ça, c'est son petit flacon de Chanel, parce que tous les jours, il fallait un petit flacon de Chanel qu'elle mettait dans son bain. Elle avait rencontré Marilyn Monroe aux États-Unis, ils avaient parlé parfum, plutôt que ce soit dans des malles, que les affiches soient roulées, que les photos soient toujours rangées. Voilà, je me suis dit, pourquoi pas un musée ? C'est notre passion et qu'on aimerait bien la partager.
Alors, c'est une très belle idée, Nathalie Chevance, mais quand on parle d'Edith Piaf, on pense immédiatement Paris. Quelle légitimité de concevoir un musée à Marseille ?
Eh bien déjà parce que la collection est ici, pas très loin du boulevard Chave, où elle a d'ailleurs vécu pendant la Seconde Guerre mondiale. Marseille est une ville qu'elle aimait beaucoup. Elle se rendait régulièrement à Notre-Dame-de-la-Garde pour prier. Elle s'y est produite, bien sûr, à Marseille. Son portraitiste officiel vivait ici. Reste à trouver un mécène, un local. Une cagnotte a été lancée en ligne pour récolter des fonds.
Et Eva, vous, quand vous étiez enfant, un peu comme Edith Piaf, vous priez pour que le Seigneur, le petit Jésus, faites que je sois un jour une vedette. Mais ça n'a pas marché pareil. Quoi.
D'ailleurs, on a des enregistrements originaux.
Ça n'intéresse personne, mais on peut faire un musée aussi avec tous les souvenirs des Varocs. Merci Nathalie Chevance, notre correspondante à Marseille. Et ils sont tous les deux parrains de l'année de la bande dessinée en France qui vient de démarrer. Mais on a quand même deux profils assez différents, surtout pour moi. En effet, à ma droite, c'est la première fois de ma vie que je la rencontre. Je suis extrêmement intimidé, sachant qu'elle vient d'être élue à l'Académie des Beaux-Arts, l'équivalent de l'Académie française pour les peintres. Une première pour une dessinatrice de bande dessinée. Bonjour Catherine Meurice.
Bonjour.
C'est très émouvant.
Surtout sur cette musique.
Oui, à vos côtés, lui, j'avoue, je le connais un chouïa mieux, vu que je l'ai reçu un paquet de fois et que c'est mon voisin dans la vie. Bonjour Jules, ou plutôt salut mec.
Salut chef.
Décidément, t'es dans tous les bons coups, toi. Macron part en Chine, hop, tu montes dans l'avion. Catherine Meurice entre vos arts, hop, tu t'arranges pour être parrain de l'année de la BD avec elle. Hey, c'est gagnant-gagnant pour toi.
C'est ça, c'est l'amour courtois.
Plus sérieusement, Jules, on le rappelle pour ceux qui n'ont pas la chance d'être votre voisin comme moi, vous n'êtes pas le rappeur talentueux. Il y a eu des confusions, pour tout vous dire, la dernière fois, j'ai un auteur qui travaille avec moi sur cette émission qui m'avait fait toute la fiche sur Jules, le rappeur, le jour où je n'avais pas compris que c'était vous. Jules, l'auteur de bande dessinée Silex and the City, 50 nuances de grec, entre autres. Et puis maintenant, Call of Duty Génération Greta, encore un bon jeu de mots. Vous êtes donc tous les deux les parrains de cette année de la BD qui vient de démarrer. Ça consiste en quoi déjà votre job de parrain ?
Qu'est-ce qu'on fait ? C'est un petit club bien fermé. Non, on est là pour accompagner, représenter dans les écoles, dans les musées. Il va y avoir beaucoup de choses.
Oui, parce qu'ils ont proclamé que ce serait l'année de la BD 2020. Et donc, on a un peu un rôle de Miss France, d'inaugurer des choses comme ça.
Vous êtes les Miss France de la BD.
Voilà. Ouais, et en même temps, on s'est dit que... On s'est un petit peu téléphoné avant d'accepter, je pense. Savoir est-ce que ça allait être comme
payé,
les animations
non.
de Super Mario.
Non,
c'est pas payé. En revanche, voilà, c'est pas qu'une opération commerciale, semble-t-il. Il y a plein de choses un peu intéressantes. Et du coup, de jouer le rôle de porte-parole et de porte-voix, parce que en fait, il y a plein de choses à raconter hein, sur la BD aujourd'hui. On peut faire un petit. Voilà, une petite équipe.
2020 sera donc l'année de la BD en France. Quand le ministère de la Culture l'aura dit, ça démarre dans 3 mois, vous en serez les parrains. Catherine Meurice et Jules ont été un peu pris de court.
3 mois, mais 3 mois avec combien de temps de retard ?
Alors, c'est quoi le but de cette année de la BD ? Ça cartonne déjà tout seul, la BD, non ? Il y a besoin de la promouvoir encore, la BD, en France ?
À mon avis, c'est un genre de célébration. C'est-à-dire que ça fait 15 ans que la BD a accédé à tous les degrés de la notabilité. Je pense que l'apogée, c'est l'entrée de Catherine Meurice sous la coupole.
Mais oui, ça, c'est
tout le monde a des médailles à en revendre, des breloques. On pourrait les fondre pour faire des canons. Hein. Voilà. Et chacun, la bande dessinée marche très très bien. Les albums se vendent par centaines de milliers. Et en même temps, c'est un monde un peu disparate qui a quelques petits problèmes. Donc, l'année de la BD, ça permet de mettre en lumière toute cette histoire-là.
Quand je regarde vos dernières créations respectives, Delacroix pour vous, Catherine Meurice, et Call of Duty pour vous, mon cher Jules, je me dis que la BD peut être formidable, mais elle peut être aussi très différente. L'art graphique d'un côté, la BD plus de l'autre, je ne sais pas comment dire, mais on voit que ça réunit des
gens différents. Ce qui est étrange, c'est qu'on vient du même terreau avec Catherine. C'est-à-dire qu'on vient du dessin de presse, de la critique politique, d'un ton un peu grinçant. Et puis, effectivement, on a nos singularités. Moi, je suis quelqu'un qui fait des gags, des blagues, même si... Voilà, j'ai un travail patrimonial sur la philo avec la planète des sages ou sur la mythologie
moi,
avec 50
d'humour.
Nuances de la Catherine Meurice, c'est un peu la janséniste de la BD, comme ça, la porte étroite du salut.
Ah, c'est pas vrai.
Mais cela dit, c'est elle qui est sous la coupole et pas vous.
Et il y a beaucoup d'humour dans Delacroix, il faut le préciser.
Évidemment, on le précise aussi. Le 9e art est en fait, 2020 sera l'année de la BD. Catherine Meurice et Jules répandent la bonne parole tout l'après-midi sur Europe. À l'occasion de l'année de la BD que nous fêtons aujourd'hui avec nos invités Jules et Catherine Meurice, on s'est posé la question : quelle place la BD occupe-t-elle dans votre vie ? Eh bien, visiblement, une place variable.
C'est fini là pour moi la BD, non? Ah oui, je lis des livres, mais je ne lis pas de BD. Bah voilà, on peut pas tout faire. Hein.
C'était des classiques, c'était Tintin, c'était Astérix, voilà. Bah en fait, dans notre famille, tout le monde lit des BD, donc même nos grands-parents. Donc,
Je lis beaucoup, beaucoup, beaucoup de mangas. Quand j'étais petit, je lisais ce qu'on appelait des shonen, donc c'est des mangas pour adolescents, là où il y a beaucoup de combats, Naruto, Dragon Ball Z, One Piece, tout ça.
L'Arabe du futur, bah ça c'était top. Il y a une BD que j'aimerais lire. C'est l'homme le plus flippé du monde, Théo Grosjean, qui parle de son trouble de l'anxiété généralisée et qui fait des blagues dessus en BD. Et je me tâte à l'acheter et ça se fera peut-être.
Moi, s'il y a une BD que j'aime beaucoup lire, c'est Largo Winch. Le seul problème, c'est qu'il faut attendre que le prochain épisode sorte et tout. Donc, ouais.
Moi, j'ai plutôt été élevé avec Proust, Kafka et ça, c'était mes BD, voyez-vous.
Moi, j'en ai déjà lu une de BD.
N'est-il pas croqué, ce petit chou? Oui. Jules, Catherine Meurice, on évoquait tout à l'heure votre rencontre. Vous avez tous les deux des styles assez différents, mais vous avez commencé par le dessin de presse. Ça vous relie. Comment, je pense juste sur la technique, Catherine Meurice, quand on voit sur Europe1.fr en vidéo ce que vous faites, et on comprend pourquoi vous êtes sous la coupole maintenant des Beaux-Arts. Vous avez pris des cours. Comment ça se passe? Comment on atteint ce niveau de...
En travaillant, ça fait 15 ans maintenant que je fais ce métier.
Il n'y a pas que le travail, il y a un peu de talent. Déjà petite, vous aviez un...
Oui, mais je crois comme tous les dessinateurs, Jules pourrait, je suis sûre que tu vas répondre la même chose.
À quel âge on découvre son talent?
Je crois que les autres le découvrent pour nous, mais j'ai mis du temps à faire des études de dessin, par exemple. J'ai attendu longtemps, j'ai fait des études de lettres avant, je n'étais pas très sûre de mon coup. Puis surtout, je ne voyais pas ce que ça pouvait être concrètement, je ne voyais pas quel métier faire, j'avais vraiment aucune idée. Et c'est quand j'ai rencontré Jules, bien sûr, Jules, qui m'a donc sorti de la misère poitevine. Voilà, non, vraiment, quand j'ai découvert le dessin de presse, je me suis dit, c'est génial, j'ai un métier, c'est concret, on va faire un journal, etc. Et en plus, je vais être payée, je vais pouvoir... Bon, bref. Et voilà, et en parallèle, je faisais des livres jeunesse que vous avez cité tout à l'heure, des albums de bande dessinée, et puis je bricolais dans mon coin, peinture, encre de Chine, plume. Puis j'ai continué. C'est vrai que dans mes albums, je parle souvent d'art et de littérature, et je regarde beaucoup les peintures, et c'est ce qui me fait progresser, je crois. Enfin, j'espère. Voilà. Oui, c'est comme ça qu'on apprend.
On peut vous le confirmer. Jules, vous, c'était quoi le déclic? À quel âge vous vous êtes dit, tiens, je vais en faire mon métier, ou en tout cas, j'ai envie de faire que ça, quoi, du dessin?
Mais je ne sais pas encore si c'est ce qui va m'arriver pour le restant de mes jours, mais j'ai quand même un souvenir très net. Georges Wolinski avait eu ses enfants dans mon lycée, et donc il avait accepté de donner un dessin original pour une vente de charité ou quelque chose organisé. Et comme les profs de mon lycée savaient que je dessinais déjà, je faisais des fanzines que je vendais à mes copains, c'est moi qu'ils ont envoyé chez Georges Wolinski pour aller chercher l'original du dessin. Et donc j'ai sonné chez lui, j'étais très impressionné, je devais être en classe de première, et donc je suis arrivé dans son atelier et il m'a fait le grand jeu. Il m'a fait une espèce d'interview comme ça, il m'a dit « mais ah oui, alors tu dessines, t'as une copine ?» Alors, je n'osais pas répondre. J'ai dit oui, plus ou moins. Enfin, c'est compliqué.
Ma mère.
Bon, il faut la... Non, mais... ma mère, c'est pas le dire. Non, il m'a dit, non, mais alors, il faut que tu la dessines à poil tout le temps. Ma mère. C'est le premier conseil dans la vie. Et je suis reparti tremblant avec cet original de Wolinski sur mon petit vélo pour le ramener au lycée. Et avec cette image de fille à poil à dessiner. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir. C'est probablement un genre de déclic, hein, un des premiers déclics.
L'émission qui plaît tant aux invités que souvent, au beau milieu, ils s'exclament comme Christophe Onodibio.
C'est terminé ?
Non, c'est la moitié de l'émission.
Ah oui !
Bon bah très bien.
Aujourd'hui, pour fêter cette 100e, c'est François Berléand qui nous accompagne. François, vous serez à l'affiche mercredi prochain. Ça lui parle déjà.
Vous lui faites peur à François.
C'est formidable. C'est drôle.
François, vous serez à l'affiche mercredi prochain de l'Esprit de Famille aux côtés de Guillaume de Tonquédec. On continue d'en parler, mais l'heure est venue d'écouter notre première concurrente du jour, et pas des moindres, puisque Sophie Lamoyer est l'expert géopolitique d'Europe 1. Et Sophie, avec vous aujourd'hui, nous mettons le cap sur le Brésil. Oui, mettons le cap sur le Brésil, mais avec les moyens techniques d'Europe 1 qui ne sont pas terribly new, comme on dit là-bas. Alors Sophie, oui, un ministre a un peu cité Goebbels dans un discours, mais il a été viré. Preuve que Bolsonaro n'est pas complètement fou quand même.
Oui, enfin franchement, on se demande comment il a imaginé que ça pourrait passer. Ouais. Une allocution a priori banale, il voulait annoncer la création d'un prix pour les arts brésiliens. Donc voilà, il fait une petite allocution.
Eu sou Roberto Alvim. Secrétaire spécial.
Il se présente, c'est une allocution diffusée sur les réseaux sociaux, à peu près 6 minutes d'intervention. Le ton est assez solennel,
et
emphatique.
La musique, c'est vous qui l'avez rajouté ou...
Non, vous allez voir. Ouais. Il parle des valeurs de l'art liées au peuple brésilien. Il est filmé de face, il est assis derrière son bureau, encadré par une croix patriarcale et le drapeau du Brésil, un portrait du président. Il y a cette musique en fond, lyrique, c'est un opéra de Wagner. Et puis Roberto Alvim a un look particulier. Les cheveux plaqués en arrière, strict, un regard d'acier. Il vit son texte. Hein. Alvim est drapeau. dramaturge dans sa vie d'avant, avant d'être secrétaire dans ce gouvernement d'extrême droite de Jair Bolsonaro. Et en fait, il joue...
C'est comme s'il jouait un rôle, en fait, dans
exactement,
cette vidéo.
C'est exactement ce qu'il fait. Les mots qu'il prononce sont donc empruntés à Joseph Goebbels, le chef de la propagande nazie. C'était des mots prononcés le 8 mai 33, alors qu'il avait été fraîchement nommé ministre du Reich à l'éducation du peuple et de la propagande. C'est quasiment du mot pour mot. Écoutez Roberto Alvim.
L'art brésilien de la prochaine décennie sera héroïque et national. Il sera doté d'une grande capacité d'investissement émotionnel et sera tout autant impératif, car il est profondément lié aux aspirations urgentes de notre peuple, ou il ne sera pas.
Voilà, il évoque aussi... la naissance de formes esthétiques puissantes favorisées par les vertus de la foi, de la loyauté, de l'autosacrifice, de la lutte contre le mal.
Alors, on imagine qu'il a essayé de se défendre devant le scandale que ça a provoqué. Comment il peut se justifier d'une inspiration puisée dans le Troisième Reich ?
Alors, il a prétendu qu'il ne savait pas que c'était du
Goebbels,
que
ne pas savoir.
Son discours avait été rédigé à partir de notes, d'idées liées à l'art nationaliste, des idées soumises par ses assistants. Mais enfin, toute la mise en scène dit le contraire, son attitude et puis cette musique de Wagner, vous savez, le compositeur préféré d'Hitler.
Alors, Jair Bolsonaro, on le sait, est issu de l'extrême droite. Il se méfie du monde de la culture ?
Ouais, c'est simple. Une des premières choses qu'il a faites en arrivant au pouvoir il y a un an, c'est de supprimer le ministère de la Culture. Il l'avait d'ailleurs annoncé dans son programme. C'est devenu un secrétariat d'État rattaché d'abord au ministère de la Citoyenneté et depuis quelques mois au ministère du Tourisme. Il se méfie parce que le monde culturel brésilien est foisonnant, est extrêmement dynamique, il est divers. Ouais. Et vous savez que l'extrême droite n'aime pas la diversité. Pour sa première année de gouvernement, elle a consciencieusement coupé les subventions de nombreux projets culturels, des festivals, des films, censurant d'ailleurs surtout ceux qui portaient sur des thématiques LGBT, au point d'ailleurs que le précédent secrétaire à la culture a claqué la porte au mois d'août en disant qu'il préférait être au chômage que d'applaudir à la censure.
Mais Roberto Alvim, c'est pas le premier à démissionner, c'est un poste très mouvant, non ? Secrétaire d'État à la culture.
C'était le troisième secrétaire à la culture en un an. D'ailleurs, la prochaine, on l'a su hier, elle a 72 ans, c'est une ancienne actrice de telenovela, star dans les années 80. Donc Alvim, c'est le troisième. Il voulait lui créer une machine de guerre culturelle pour défendre la civilisation judéo-chrétienne contre sa destruction par des forces progressistes. Vous voyez le programme ?
Tout un projet, oui.
Voilà, dans le genre gratiné aussi, il y a le chef d'orchestre Dante Mantovani qui est nommé président de la Fondation Nationale des Arts. Il affirme que le rock active la drogue, qui active le sexe, qui active l'industrie de l'avortement, qui active le satanisme, CQFD. Donc vous voyez, on en sourit, on en plaisante,
mais la réalité
est extrêmement dure pour les artistes au Brésil. Comme le gouvernement de Bolsonaro n'arrive pas à mettre le monde culturel à son service, au service de cette pensée unique, il lui coupe les vivres, il essaye de le museler. Certains évoquent là-bas le début d'une époque de terreur culturelle. Donc c'est vraiment très sérieux.
Pas de tournée prévue au Brésil, François Berléand ?
Pas tout de suite.
On va réfléchir. Oui. Pour vous, il est certainement José de Scène de Ménage sur M6, mais pour moi, qui ai grandi avec le Club Dorothée, il est avant tout la voix de Mister Satan dans Dragon Ball Z, l'homme le plus fort du monde qui, avant de casser des briques, hurlait.
Dès que j'ai du texte,
c'est une de vos plus belles répliques.
Je suis l'acteur de voyelles, moi. Je fais pas les consonnes, je fais que les voyelles.
Frédéric Bourali, vous devez adorer qu'on vous renvoie au personnage de Mister Satan quand on connaît votre carrière.
Bien sûr, quand on a joué Shakespeare, Marie-Vo et tout ça, c'est ça qu'on me balance dans la gueule. Merci.
Bienvenue dans l'équipe Sauvage.
Génial.
Alors, pour les téléspectateurs d'M6, Frédéric, vous êtes évidemment avec Valérie Carcenti, José et Liliane. Ouais. Mais c'est pour une pièce que vous venez nous voir cet après-midi, le Muguet de Noël au Théâtre Montparnasse à partir du 30 janvier. Alors, par définition, c'est le 30 janvier, on l'a pas vu la pièce avec Eva. Par contre, on a pu la lire. Ouais. Et quand on se marre à la lecture d'une pièce, c'est quand même très très bon signe. Quand à chaque page on a un éclat de rire, ça sent très bon.
Ah merci, ça fout la pression. Parce qu'on
vous avez intérêt à être à la hauteur du texte.
Ouais, c'est ça. Bah oui, on va essayer de le jouer quand même. Bon là en ce moment on a la période, on a peur. Hein. Ouais. Vraiment, on est plus souvent aux toilettes que sur scène parce qu'on on est un peu effrayé. En plus on sait qu'on est très attendu, mais avec Lionel c'est Astier.
Vous connaissez votre texte déjà par cœur, c'est bon ? Ça y est.
Ouais.
Vous êtes sûr ?
Depuis longtemps, ouais.
Si je vous dis acte 2,
Ouais.
vous pouvez embrayer.
Acte 2 de quelle pièce ? Parce qu'on en joue 2 en ce moment.
On va parler de la pièce que vous jouerez dès le 30 janvier. Mais d'abord, un mot de cette série phénomène que vous avez failli, je crois, refuser, c'est vrai ?
Non, j'ai pas. Non, enfin, non, pas du tout.
C'est, en fait, c'est un vous savez quoi qui circule sur Internet.
Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Gérard Hernandez. C'est son anniversaire aujourd'hui. C'est Gérard qui hésitait, il savait pas trop s'il allait faire. Moi, j'étais ravi. Enfin, j'ai passé un casting comme un autre. J'aurais jamais imaginé, bien entendu, que ça allait avoir ce succès.
Cette pérennité,
ouais, c'est extraordinaire. Ça fait 10 ans, ouais, c'est génial.
Il n'y a pas de lassitude ?
Non, parce qu'on ne tourne pas beaucoup avec Valérie. On ne tourne qu'une trentaine de jours par an, c'est très peu. Ouais. Donc il n'y a pas de lassitude. À chaque fois qu'on y va, c'est la fête.
C'est des tournages très intenses. Vous tournez beaucoup d'un coup ?
Alors non, c'est 30 jours, en plus 10 séminaires à l'année. Par exemple, ça fait 3 mois qu'on n'a pas tourné parce que la production est très sympa et nous a laissé du temps pour répéter la pièce.
Alors à partir du 30 janvier, vous serez vous au Théâtre Montparnasse dans une pièce très drôle, on peut le dire, parce qu'on l'a lu.
Merci.
Avec Eva, intitulée Le Muguet de Noël.
Merci.
Alors je raconte en quelques mots l'histoire, mais il faut pas tout dévoiler.
C'est compliqué.
C'est une pièce sur l'amitié. Vous êtes Pierre, le meilleur ami de François, interprété par l'excellent Lionel Astier. Ouais. Et vous vous soutenez, on va dire, envers et contre tout. Ça va être l'axe de la pièce, quoi.
Je suis l'ami qu'il ne faut pas avoir, celui qui fout la merde, qui donne des mauvais conseils et qui est là tout le temps dans ses pattes. Mais c'est un ami quand même. Et cette amitié va être quand même bien bousculée, bien mise en jeu pour des histoires de travail. Voilà. Alors, c'est très difficile de donner...
Ben oui, parce que sinon on révèle.
Ouais, si on révèle des trucs. Mais c'est très beau parce que... Mais ça, c'est la grande qualité de ces deux auteurs, Nicolas Poiret et Sébastien Blanc, avec qui on vient de jouer pendant plus de 2 ans la Deux mensonges d'une vérité. On a fini samedi dernier, là. On a enregistré le spectacle. Et c'est une grande écriture parce que c'est des comédies de situation, vraiment, et qui font réfléchir. Je sais, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Si vous venez.
Pas pour réfléchir non plus, puisqu'Eva a aimé la pièce. Hein, donc visiblement, ça peut aller. Il vous régale dans Scène de ménage. José, de son vrai nom, Frédéric Bourali, va vous surprendre au théâtre. Au lieu de répéter, il passe l'après-midi sur Europe 1. Se marrer sans pour autant débrancher son cerveau, vous écoutez L'Équipée Sauvage, 2 heures à la frontière du rire et de l'info en compagnie des meilleurs journalistes d'Europe 1 dont les compétences donnent souvent le tournis à nos invités comme Thibaut de Montalembert vendredi qui en écoutant Eva a déclaré
« C'est vertigineux en tout cas, il y a un moment on sait plus où on est ».
Un vertige que découvre à son tour aujourd'hui Frédéric Bourali alias José dans la série Scène de ménage, alors que vous pourrez découvrir sur scène au Théâtre Montparnasse à partir du 30 janvier dans Le Muguet de Noël, une pièce, on le disait, vraiment excellente. Avec Eva, on a eu la chance de la lire, j'ai envie de dire, en avant-première. Le succès aujourd'hui est là, à la télé, au théâtre. Est-ce que vous avez galéré à vos débuts, Frédéric Bourali ? Ça, c'est une question que les auditeurs adorent, parce que ça donne confiance aux jeunes comédiens qui se lancent et qui se disent,
Il n'a pas encore répondu, il n'a peut-être pas galéré.
Ah non, peut-être qu'il va nous dire que tout de suite, il a eu l'Oscar, mais ça m'a échappé.
Non, j'ai galéré. Mais non, en fait, galéré au niveau du blé, certainement. Mais j'étais tellement passionné par mon boulot. Je ne me posais pas ces questions de savoir si j'allais vivre. Je voulais ça. Je voulais vivre de ce métier-là. Maintenant, si je me dis, maintenant, évidemment, il y a une différence, évidemment, de statut, mais je me souviens quand j'ai commencé il y a 1000 ans, hein, c'est Louis XVI qui m'a lancé. Non, je suis nul en histoire. Mais j'ai démarré en temps, mais j'étais très heureux, très heureux. J'ai commencé à Lyon, je faisais la régie dans un petit théâtre le soir, j'allais au conservatoire toute la journée, je faisais plein de... Mais c'était ma vie, j'étais très heureux comme ça.
Vous avez joué des rôles sérieux, entre guillemets.
Beaucoup,
Et aujourd'hui, c'est dans la comédie qu'on vous connaît. Vous pourriez revenir à des rôles...
Mais bien sûr, moi je l'ai fait là. L'été dernier, je suis dans une série là sur TF1 qui s'appelle Peur sur le lac.
C'est plus sérieux.
C'est pas sûr. En fait, ça ne veut pas dire grand-chose, sérieux. Pour faire rire, il faut être très sérieux, en fait, paradoxalement.
Les acteurs de Cadmera nous disaient qu'il en avait notamment son César. Ouais. Il disait, je suis content d'avoir eu un César, mais c'est pour un rôle dramatique, alors que j'ai fait des choses beaucoup plus dures
bien
en tant qu'acteur,
sûr.
Dans des rôles de comédie.
Bien sûr.
Les comédies ne sont pas encore
C'est beaucoup plus difficile de faire rire que de... Enfin, c'est des phrases qu'on dit tous, je ne sais pas si les gens le savent, on s'en fout de ce que je raconte, mais... Enfin non, on ne s'en fout pas, je suis à Europe 1 en train de parler au micro.
Tout à fait.
Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Mais qui vient de dire qu'on s'en foutait de ce que je dis ? Mais qui... C'est quand il imite ma voix.
Il est aussi schizophrène que Cadmera. Complètement schizophrène. Alors Frédéric Bourali, vous la voyez qui s'impatiente, elle s'agite sur sa chaise, vous connaissez Eva Rock ?
La femme frivole qui s'intéresse à tout ce qui brille.
Oui, voilà, c'est exactement c'est elle. Eh bien, c'est l'heure où elle défie l'invité. Avec 87 défaites à son actif en seulement 95 émissions, elle a un ratio victoire-défaite proche d'un tennisman français à Roland-Garros. Et aujourd'hui, Eva, Si je vous dis que le thème du quiz, un clin d'œil évidemment à la série Scène de ménage et le couple, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux gens qui ont préparé ce quiz ?
Bande de gros cons.
Tout ça dit, on peut commencer, une bonne réponse et gagner un point.
Ça donne envie de jouer, hein, tout de suite.
Ouais, tout de suite. Ouais. Et Varrock, il y a quelques jours, nous recevions Cadmerat dans l'émission, on vient d'en parler. Il est en couple avec l'animatrice Julia Vignali. Et bien, par amour, il a confié dans la presse People qu'il faisait du roller une fois par semaine avec elle. Vrai ou faux ?
Bon, c'est pas un grand geste d'amour quand même, hein. Faire du roller, c'est pas non plus... je pense qu'il est capable de mieux, donc je vais dire faux.
Ah, vous raisonnez comme ça.
Oui.
Et
ouais,
pour
oui.
une fois, vous avez le bon raisonnement. C'est faux. Par contre, il a confié que par amour, il a fait plus que du roller, il a regardé l'émission qu'elle présente.
Oh, c'est moche.
Le meilleur pâtissier, même s'il n'était pas fan au début, il s'est forcé parce que sa femme lui demandait souvent son avis et finalement, il trouve ça pas mal, ce qui est un beau compliment.
Oh, bah oui.
Frédéric Bourali, un couple de Britanniques a des jumelles de 5 ans et ils ont passé une annonce pour trouver une nounou. Elle sera payée 45 000 euros par an, mais elle devrait être également stripteaseuse dans le bar que tiennent les parents. Vrai ou faux ?
Mais non.
Vrai, alors moi je dis vrai, un truc aussi énorme, alors, c'est vrai tout de suite.
Franchement, un truc aussi énorme, j'aurais dit vrai tout de suite.
Direct.
Mais les personnes qui conçoivent ce quiz sont visiblement complètement tarées. Non, c'est faux.
Ah, merde.
Par contre,
quelle déception.
Pour 45 000 euros, elle devra au moins une fois par mois se déguiser en princesse Disney et changer tous les mois de princesse. La location du costume est payée par les parents, mais contractuellement, elle devrait être, je cite, souple sur les horaires et créer une atmosphère féerique dans la maison.
Ouais, c'est un peu ça pareil que le strip. Quand même.
C'est un peu oui.
Parce que être souple en général, je pense.
Atmosphère féerique, pour moi, ça veut dire striptease.
Et puis, on ne sait pas pour qui c'est le costume de la princesse de Disney.
On
ne
sait pas si c'est pour le papa ou les enfants. On ne sait pas. Eva Rock, Frédéric Bourali, vous jouez ensemble.
D'accord.
Georges Valence, journaliste, a sorti en 2011 sur Valérie Giscard d'Estaing un livre. Qu'apprend-on dans cet ouvrage sur le couple Valérie et Anémone ? 1. Qu'ils se sont rencontrés alors qu'ils étaient tous les deux en couple. 2. Qu'ils ont toute leur vie fait chambre et étage à part. Ou 3, qu'ils sont tellement pingres que quand on dîne chez eux, il vaut mieux vérifier la date de péremption des aliments.
La vache. Ah ouais. Moi, je dirais la première.
Ils se sont rencontrés, ils étaient déjà en couple.
Ouais.
Eva.
Moi, j'aime bien le côté pingre.
Bah, bien sûr.
Le côté pingre.
Oui.
C'est-à-dire que chez Valérie Giscard d'Estaing, il faut vérifier la date de péremption des
yaourts. Oui, alors on ne peut pas le vérifier, mais j'imagine, ça doit être.
Enfin, Eva, on parle quand même d'un ancien président de la République.
Mais alors, il peut être pingre et président de la République. En plus, je sens que j'ai la bonne réponse.
Vous avez la bonne réponse.
Non,
il vaut mieux vérifier les dates de péremption. Alors, je cite le livre. Lorsqu'on est invité chez les Giscard d'Estaing, il faut regarder les dates de péremption. La rigueur peut parfois tourner à la pingrerie. Les jus de fruits servis à la famille de son collaborateur et ami Claude-Pierre Brossolette sont si éventés que Madame Pierre Brossolette fait signe à ses enfants de ne pas en boire.
Oh, non, c'est génial.
Attention, attention.
C'est sexy.
Eva Rock,
oui.
Taylor Jackson est ce qu'on appelle pudiquement une actrice de charme. Elle marquera l'histoire du porno car avec son petit ami, ils sont les premiers à avoir fait l'amour en vidéo dans une voiture autonome. Vrai ou faux ?
Oh,
c'est que la voiture avance.
Oui, oui,
tout
oui,
seul,
oui,
et
oui,
eux,
oui, tout à fait. Oui, je vois très bien.
Vous voulez que je vous fasse un dessin ?
Non, mais c'est dangereux de faire l'amour dans une voiture autonome.
Je ne demande pas votre avis de sécurité routière. Vous demandez une réponse à la question.
Moi, je dis oui.
Vous dites oui ?
Ouais.
Vous êtes béni des dieux aujourd'hui.
C'est
20
vrai
millions de vues pour la vidéo. L'histoire
retiendra
que c'était en mai 2019 dans une Tesla Model X. Ça ne s'invente pas.
C'est génial.
Elon Musk a tweeté, j'aurais dû le voir venir. Frédéric Bourali, c'est la dernière question qui va vous départager. Le premier rendez-vous galant entre Faustine Bollaert et Maxime Chattam, l'écrivain spécialiste du thriller, a eu lieu dans un ancien hôpital psychiatrique désaffecté. Vrai ou faux ?
Ah, ça donne envie que ce soit vrai, ça. Ouais, moi je dis oui.
Il dit oui, il a raison, je
Et
cite
oui.
Faustine.
Bah ouais.
On a passé notre après-midi à regarder les vieilles radios qui traînaient, à essayer de se faufiler dans des petits passages secrets de cet hôpital désaffecté qui faisait très très peur. Et du coup, j'ai dû me blottir dans ses bras. Moi je dis, il est fort, Maxime.
Il est très très fort.
Et qui est le plus fort aujourd'hui ? C'est Eva Rock qui
alors
remporte
ça,
son premier quiz depuis au moins 10 ans, même si l'émission n'a commencé qu'en septembre.
Mais vous imaginez le paradoxe
mais
de cette émission.
Mais je vais vous dire, Eva, c'est un signe du destin.
Vous croyez ?
Certainement, 2020 sera pour vous l'année du couple.
Je peux préciser que je vous remercie beaucoup de m'avoir inscrit sur un site de rencontre où on met le site de rencontre et bouffe, hein, vous savez ?
Oui, mais c'est ce qu'il vous fallait, non ?
Non, non, mais j'ai refusé l'invitation, vous imaginez bien.
Non.
Bah si.
Il faut aller sur les sites de rencontre, Eva. Je vais vous réinscrire. Vous l'aimez ?
Rencontre et bouffe, là.
Rencontre et bouffe, c'est le nouveau site.
C'est du rembouffle.
On l'a fait comme ça, ils n'ont pas eu cette idée marketing.
Ouais.
Vous l'aimez dans Scène de ménage, vous pourrez le découvrir en vrai au Théâtre Montparnasse à la fin du mois. Frédéric Bourali, vous êtes content de passer l'après-midi sur Europe 1 ?
Les gens sont venus de très loin pour me voir. Je n'ai pas le droit de les décevoir maintenant.
Oui, enfin, non, parce que là, on n'est pas en public le lundi, donc ils ne sont pas venus loin, ils ne sont pas venus du tout. Mais c'est pas grave, on est content de vous avoir. Expert sport d'Europe 1, Jérôme Lacroix fait partie de ces athlètes pour qui le sport ne s'arrête jamais. Même dans les moments les plus intimes de sa vie privée, avec Madame Lacroix, son objectif premier reste toujours la performance, quitte parfois à être un peu didactique.
Non, tu ne perdras pas.
C'est dur au démarrage, mais il faut juste que je me cale par rapport à l'intensité que je donne, en fait.
Jérôme Lacroix, un lancement potache, quoi de mieux pour introduire votre sujet du jour sur un boxeur à Auschwitz en 1945.
Ce rendez-vous demain au siège parisien de l'INSEP, le centre de formation de nos élites sportives, en présence de son état-major, c'est tout le sport français qui va rendre hommage, comme tous les ans, à l'entrée de la salle de boxe qui porte son nom à l'un des champions français les plus méconnus de notre histoire. Il s'appelle Victor Junki, dit Victor Junki. Je vous raconte l'histoire de ce boxeur champion de France, champion du monde, mort à 33 ans, oui, assassiné par les nazis. L'histoire le dénomme le boxeur d'Auschwitz.
Le stade du Belvédère à Tunis, décoré de drapeaux français.
Tunis, stade du Belvédère, la foule admire un bonhomme d'un mètre 55, 48 kilos. Victor Junki boxe chez lui, c'est un gamin de la Hara, quartier juif et populaire tunisois. Dans les années 1920, il enchaîne les victoires et devient très connu dans son pays. Mais il est si jeune, c'est un adolescent, c'est un gamin. Victor Junki se surnomme alors Young, jeune, puis Young Pérez. Pérez inspiré des boxeurs sud-américains stars de l'époque. Alors il est fort d'un certain palmarès local, il traverse la Méditerranée, bonjour Paris. Mais en France, il est personne. Alors il se trouve du boulot, vendeur de chaussures, il devient, puis surtout, il se trouve une salle d'entraînement.
Et alors là, les succès ne se font pas attendre.
1928, il devient la référence, il est champion de France, et puis la consécration, octobre 1931, 16 000 personnes au Palais des Sports de Paris, Victor Young Pérez met au tapis l'Américain Frankie Gennaro. Il est champion du monde catégorie mouche à 20 ans. Il est alors, et il est encore aujourd'hui d'ailleurs, le plus jeune champion du monde français de l'histoire de la boxe. Alors, après ce succès, s'ensuit une vie de château, voiture décapotable, idylle amoureuse avec Mireille Balin, actrice femme fatale des années 30. Young Pérez, sportivement, il s'effondre, il prend du poids, il perd son titre de champion du monde. Sa belle part au bras d'un jeune chanteur nommé Tino Rossi.
Waouh, faire piquer sa meuf par Tino Rossi, ça fait mal. Et qui plus est, la guerre arrive.
Victor Young Pérez, il est juif. Jamais il n'a accepté de porter l'infâme étoile jaune. Il est arrêté en 1943, déporté à Drancy puis Auschwitz. Et c'est là que s'ouvre l'une des plus incroyables pages de son destin. Le chef du camp, il est fan de boxe. Et lui, il ne peut pas croire qu'un juif a réussi une telle carrière. Alors, il passe un genre d'accord avec Victor Young Pérez. Il lui dit, si tu veux rester en vie, tu devras combattre. Combattre des officiers SS à l'intérieur du camp. Alors, les combats, ils sont bien sûr très inégaux, puisque le champion, il est affaibli, il est amaigri. Il prend rouste sur rouste. Les nazis sont amusés et se gaussent d'une pseudo-supériorité aryenne. Il faut savoir que Pérez, il avait déjà été confronté à l'antisémitisme quelques années plus tôt. Il a combattu à Berlin en novembre 1938. Là, il perd sous les insultes du public allemand parce qu'on est alors en pleine nuit de cristal. Mais dans le camp, entre deux combats, il travaille aux cuisines. Là, il vole de la soupe, il vole du pain pour donner aux autres déportés. L'histoire veut d'ailleurs que c'est pour avoir voulu donner du pain aux autres captifs qu'il est fusillé par un garde lors d'une marche épuisante, une marche forcée d'évacuation d'Auschwitz. On est en 1945. Le 22 janvier 1945, il a 33 ans. Ça fera 75 ans demain qu'il est mort. C'est donc cette histoire qui sera honorée demain à l'INSEP. Victor Young Pérez, le boxeur d'Auschwitz, 136 combats, 91 victoires, dont 27 par KO.
Eh bien, j'ai bien fait finalement de ne pas vous faire changer votre sujet, Jérôme Lacroix. J'ajouterai quelque chose, ça me fait penser à cette histoire qu'on lui a permis de combattre d'Auschwitz contre des SS. Ça me fait penser au film Le Pianiste, oui. où il est sauvé, mais là, ça finit mieux, parce qu'il joue du piano. Absolument. Et que l'officier SS lui demande si tu sais jouer du piano, montre-moi comme tu joues du piano. Et c'est un grand pianiste. Bref, c'est une magnifique histoire. On connaissait Marcel Sardan. On ne connaissait pas Marcel Sardan d'ailleurs, et lui, on le connaît peu, parce que lui, il n'a jamais gagné de tournoi de boxe. On connaissait Marcel Cerdan, on connaît désormais Jérôme.
Victor Young Pérez.
Thibaut de Montalembert, à peine descendu de scène, on l'a dit, vous y remontez. Est-ce qu'on a plus de pression? Et j'ai l'impression que vous allez me répondre oui, parce que cette pièce que vous jouez au Théâtre du Rond-Point, Dépendance, est un peu compliquée. Est-ce qu'on a plus de pression quand on est juste deux sur scène, qui plus est dans un décor minimaliste, que dans une pièce chorale?
Déjà, dans une pièce chorale, on sort et on rentre. Enfin, oui, c'est au ça. Cours
Il y a
de
des
la
moments
pièce,
où on peut
il y a
souffler.
Des moments où on peut aller souffler. Là, c'est tendu comme...
Tout le temps, vous êtes là, hein, tout le temps sur scène. Il y a une question que je me pose justement sur les pièces chorales, on entre, on sort. Est-ce qu'il arrive parfois au début, dans les premières présentations, qu'on regarde un peu son texte quand on est...
à l'extérieur.
Est-ce que ça arrive ou quand on est pro comme vous, ça n'arrive pas?
Non.
Vous n'avez jamais
possible.
Vu ça?
Non, pas une pièce qui a été répétée pendant un mois, deux mois, etc.
Non, ça n'arrive jamais.
Si on a des... Non. Non.
Est-ce qu'il y en a qui ont des oreillettes au théâtre?
Oui.
Ah, ça oui. Bah, c'est aussi choquant que d'aller voir son texte hors de la scène. Enfin, c'est aussi étonnant, en tout cas.
C'est différent, non, c'est pas pareil. Parce que les oreillettes au théâtre, c'est quand même... les gens auxquels je pense sont des gens qui ont un certain âge,
qui ont un peu
des problèmes de mémoire, mais qui restent des très très bons acteurs.
Donc ça n'impacte pas leur jeu?
Non.
C'est ça qui est important. Non. Alors, les personnages de cette pièce Dépendance tentent sans cesse de se dire leur amour, hein, on en a parlé, mais ces tentatives sont à chaque fois avortées. L'auteur et metteur en scène Sharif Gattaz dit « S'ils étaient juste amis, ils se sépareraient ». On rappelle que c'est des frères.
Oui.
Mais est-ce que ce n'est pas la plus belle définition d'une fratrie, finalement?
Sans doute, si. Si, c'est sans doute ça, oui, effectivement.
Vous avez eu des tensions, peut-être
avec
pas au
mes
point,
frères.
Pas comme dans la pièce, mais est-ce que j'imagine que ça ne doit pas être simple quand même d'avoir...
D'avoir quoi?
Frères et sœurs.
C'est un fils unique
qui vous parle.
Ah oui, c'est ça.
Je vous en parle avec beaucoup de candeur. Je n'ose même pas imaginer ce que ça doit être, en fait.
Non, mais bon, moi, c'est un petit peu particulier parce qu'en fait, je suis vraiment au bout du bout. Moi, je suis le septième.
Hein,
et il y a 10 ans d'écart entre l'avant-dernier et moi.
Ah oui, 10 ans d'écart, donc vous avez une position.
Moi,
je
n'étais pas vraiment
spéciale.
Prévu au programme.
Donc, vous êtes presque un enfant unique, en fait.
C'est un peu ça, en fait.
Ouais. Vous avez été le chouchou?
J'ai été élevé par des gens qui étaient fatigués déjà d'en avoir eu 6.
Donc ils vous laissaient un peu faire ce que vous vouliez.
Bah, voilà, tu veux faire du théâtre, mon fils, il n'y a pas de problème.
Avec Thibaut de Montalembert, si antipathique dans la série 10% sur France 2, sympa dans la vie.
Ah,
il est pas hyper sympa, Eva, dans la série, Thibaut.
Si.
Ah bah non, il est pas sympa. On sait jamais ce qu'il va.
Alors c'est marrant parce qu'en fait, les hommes disent ça et les femmes disent le contraire.
Mais les femmes, elles sont séduites.
Mais oui, moi je
les
trouve qu'au fur et à mesure, il est de plus en plus sympathique.
Et vous, on comprend les raisons qui font que vous l'aimez. Alors, Thibaut de Montalembert, si votre visage n'était pas connu du grand public il y a quelques années, votre voix, en revanche, l'était déjà. Vous avez été la voix principalement de Hugh Grant, mais aussi d'Antonio Banderas, de Pierce Brosnan, paraît-il. Très franchement, là, comme ça... A priori, je me dis c'est dingue parce que c'est des voix qui en français sont très différentes.
En fait, c'est une question de rythme. C'est une question de rythme, c'est-à-dire que chaque être humain a un rythme de parole qui lui est propre et que le doublage c'est ça, c'est attraper le rythme de la voix de quelqu'un.
Mais alors comment vous faites ?
C'est-à-dire que là, si vous me dites faites-moi du Hugh Grant, je suis incapable.
Vous êtes incapable. Vous êtes obligé d'écouter Hugh Grant en anglais.
Oui.
Et ensuite vous réappropriez son rythme.
Voilà.
Vous l'avez jamais rencontré ?
Non. Ça aurait pu, mais ça ne s'est pas fait.
Mais ce qui est étonnant dans ce que vous dites, c'est que moi, les rares fois où j'ai vu des documentaires sur le doublage, on voit l'acteur qui arrive, il se met devant un petit truc, on lui montre le film et il le fait comme ça du tac au tac, c'est presque un karaoké.
Oui, mais il rentre dans le rythme.
Et on peut rentrer dans le rythme sans préparer à l'avance. On voit le... Vous m'épatez, Thibaut. Il est épatant. Vous dites, j'ai fait peu de doublage, c'est un jeu dangereux.
Oui.
En quoi c'est dangereux?
Parce que c'est pas très... On n'a pas le temps de travailler en profondeur. Donc c'est très frustrant et puis c'est un système quand même. C'est un système. Donc comme tous les systèmes, c'est dangereux parce que ça vous enferme. Donc on peut devenir un excellent acteur de doublage et devenir un très mauvais acteur tout court.
Oh mince. Effectivement, il faut éviter cette
écart. Voilà.
Face à vous, mon cher Thibaut, une femme s'impatiente, elle a hâte de vous défier sur le terrain de la culture générale.
Mon Dieu.
Ma consoeur Eva Rock adore les quiz. Non contente d'y participer, elle en est parfois même à l'initiative, comme hier. Bon, alors elle débute dans la fabrication de quiz. Disons qu'elle ne sait pas encore bien calibrer la difficulté des questions, mais c'est un début. Découvrez le jeu qu'Eva a inventé pour moi sur mesure. Hier. Question pour un gros con.
La fiction est intitulée The Outsider et c'est l'adaptation d'un roman de Stephen King. Un homme promène son chien dans une forêt. Alors d'après vous, est-ce qu'on est plutôt dans la balade bucolique ou on est dans le drame à venir, d'après vous?
Bah, le drame est à venir.
Eh bien oui, évidemment.
Eh bien oui, en attendant un nouveau numéro de Questions pour un gros con, puisque le jour où vous trouverez un truc de Stephen King,
niveau.
Qui est une comédie, vous m'appellerez. Ouais. Eva, je vous propose notre traditionnel quiz.
Voilà.
Thibaut de Montalembert, nous avons choisi de faire un gros clin d'œil à la série 10%, puisque nous allons jouer sur les pourcentages. C'est un vrai faux, une bonne réponse, un point, c'est parti. Eva Rock, il y a 92% d'eau dans une pastèque. C'est le record pour un aliment vrai ou faux. J'adore quand vous prenez votre temps, mais que rien
mais,
en fait ne peut vous apporter une réponse.
Non, il n'y a rien qui peut m'apporter une réponse. Je veux dire vrai.
Vous dites vrai ?
Ouais.
C'est faux. Il y a 96% d'eau dans le concombre, soit plus. Pour votre culture personnelle, sachez qu'un camembert contient 50% d'eau.
Mais j'en mange pas, je m'en fous. Mais il y a pas.
Ah bah
donc...
moi, j'en mange beaucoup et non, mais... ça me fait plaisir de savoir que c'est très sain. Alors.
Donc il y a 92.
Une camarade.
Il y a 92 pour la pastèque et 96 pour le concombre.
Oui, bah prenez des notes. Ah, Thibaut de Montalembert, en Suisse, mon pays natal. Si votre billet de banque est déchiré en deux, il vaut la moitié de sa valeur. Vrai ou faux? Il y en a point comme nous.
Faux.
Faux, mais en Australie, si. La valeur du billet en Australie dépend du pourcentage de destruction. Si vous avez un billet détruit à 20%, il perd 20% de sa valeur.
Sans déconner. Allez,
attention, au-delà de 80%, il ne vaut plus rien. Ah. Eva Rock, Thibaut de Montalembert, vous jouez ensemble. Une personne sur 18, soit j'ai fait le calcul, 5,5% de la population, a quoi ? 1. 3 tétons. 2. Une maladie vénérienne. Ou 3. Une bouillotte. Mais moi, j'aime les quiz qui font avancer le public. Ouais, on ressort de l'émission.
On a appris un
voilà,
truc, quoi.
On se couche moins bête.
Voilà, on se couche moins bête.
Et voilà, c'est quoi vous,
alors, moi, je dirais bien la maladie vénérienne.
Ah bah, tiens, au hasard. J'étais sûr. Moi, une bouillotte.
Oh, une bouillotte. Non, oh, vous avez tort tous les deux.
Ah bon ?
Figurez-vous qu'une personne sur 18 a 3 tétons.
Ah bon.
Attention,
non.
On fait le test.
Et oui, c'est beaucoup.
388 millions de personnes dans le monde. Ça concerne autant les hommes que les femmes. Le plus souvent, ça ressemble à un grain de beauté. Par exemple, la chanteuse Lily Allen à 3 tétons. On l'embrasse. Thibaut de Montalembert. En France, la loi prévoit un pourcentage de redistribution minimum d'argent dans les casinos. Il est de 60% ou 85%.
Ah, ça je sais.
Miracle. Ah oui, vous allez au casino.
Bah, ça, elle a tous les vices. Non, maladie vénérienne, casino, ouais. Roulette, blackjack.
60, je dirais.
Et vous, Eva, que dites-vous ?
C'est 85.
Alors là, c'est-à-dire que c'est une... C'est
et,
une...
et je vais même vous dire pire que ça, c'est que c'était beaucoup plus et que le gouvernement a accepté de... Enfin, oui, le gouvernement a choisi de descendre un peu ça, mais c'était jusqu'à... C'est monté jusqu'à 90% de mémoire.
Nous vivons un jour à marquer d'une croix blanche. Et c'est effectivement une bonne réponse d'Eva Rock. 85%. Sachez que les casinos virtuels ont généralement des pourcentages de redistribution encore plus hauts qui peuvent aller jusqu'à 98% puisqu'ils ont moins de frais de fonctionnement et moins de salariés. Et les jeux de grattage, eux, c'est 51% en moyenne.
Et c'est Eva le gouvernement Rock... qui fixe.
Mais évidemment.
C'est pas les
encore heureux. Eva Rock, dans Une vie de femme, vous avez plus de chances d'avoir des triplés ou de vous faire frapper par la foudre.
La vache.
Alors, me concernant, ça sera plutôt la foudre.
Ne soyez pas défaitiste, Eva. Tout est encore possible. D'ailleurs, je relance le Evaton.
Non, arrêtez.
Appelez le 3921.
Non, arrêtez. Arrêtez avec ça. Non, mais sincèrement, ouais, plutôt la foudre, hein, je dirais.
Plutôt la foudre, vous diriez.
Ouais,
hein.
ouais,
moi aussi, j'aurais dit ça. Mais on aurait eu tort tous les deux.
Oh.
Vous avez plus de chances d'avoir des triplés. Une chance sur 250 000 d'être frappé par la foudre. Une chance sur 160 000 d'avoir des triplés. Je parle évidemment de vrais triplés monozygotes. Bien entendu, vous l'aurez compris. Qui remporte ce quiz ?
Oh bah tiens.
Mais c'est très étonnant.
Mais oui.
Et oui, il joue dans l'une des séries françaises les plus populaires du moment. Il a été membre de la Comédie Française, mais désormais en gras dans son CV, il pourra mettre « A battu Eva Rock dans un quiz pourri ». Thibaut de Montalembert ne regrette pas d'être venu.